Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonjour, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Comment interpréter le discours musclé, énergique, certainement, mais qui va loin là, de Paul Saint-Pierre Plamondon dans son conseil national en fin de semaine? Je vous dirais qu'il y a comme deux thèses qui s'affrontent. Est-ce qu'il a voulu brasser la cage, voyant que l'appui à la souveraineté monte pas? Il s'est dit, bon, l'appui au PQ monte, c'est bien beau, mais l'appui à la souveraineté monte pas. Donc, brasser les Québécois, brasser le dossier là, de l'espèce d'apathie ou de tranquillité, les gens qui regardent ça. Bon, on a le Canada marche pas trop, mais c'est pas plus grave que ça, puis il a voulu secouer la canisse. Ou est-ce qu'il est parti en peur, là? Est-ce qu'il est comme un cheval Mustang là, qu'on a échappé dans la steppe là, et qui voit plus ses limites? Parce que c'est sûr qu'il y a un côté, l'espèce de certitude d'avoir un référendum. Ouais, il va falloir que tu gagnes des élections d'abord. Après ça, ben c'est le référendum de la dernière chance. Ben là, la dernière chance. Québec est là, puis est toujours là. Mais où il y a des risques là, avec notre avenir linguistique puis culturel, je suis le premier à en parler. Où est-ce qu'on est encore loin vers ça? C'est l'autre question. Quand on va se rapprocher des élections, est-ce qu'il va parler de référendum avec le même mordant? Lui dit que oui. Il dit qu'il regarde pas ça, les sondages. Mais là, il y en a d'autres qui vont regarder pour lui s'il arrive proche des élections. Puis il y a des candidats qui pensent qu'ils gagnent leur comté, mais serré. Mais ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils prononcent le mot référendum, ils perdent un demi-point. Ils vont dire, « Hey, aurais-tu moyen? On pourrait-tu remettre ça plus tard? » Donc, il reste beaucoup de questions pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais donc, en fin de semaine, c'est certainement un discours qui a été remarqué. Encore une fois, c'est lui qui reprend un peu la pôle, qui reprend l'initiative politique. Et bon, pour ce qui est de parler à ses troupes, là, redonner la foi à ses troupes, là-dessus, on peut s'entendre, la job est faite.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
Alors, ça s'amorçait aujourd'hui, le procès de Donald Trump. On parle d'un procès qui va durer plusieurs semaines et il est censé être là tout le temps. Mais la première étape, donc c'est déjà quelque chose, entre vous et moi, mettons un mois, six semaines, qu'un candidat présidentiel fait plus campagne parce qu'il est retenu dans un procès pénal. Mais bon, il n'y a pas le choix, me semble-t-il. Pourrait obtenir exceptionnellement, là, pour une activité très importante, une dispense de la Cour, nous dit-on. Mais pour l'heure, donc il s'est présenté ce matin au palais de justice, a redit que c'était bon un pays qui va très mal, les États-Unis, que c'est un procès qui était instrumentalisé contre lui pour des raisons politiques. Toujours est-il que cette histoire de fonds électoraux qui ont été transférés, qui ont été utilisés pour payer Stormy Daniels là, dans un deal qui est passé par l'avocat de M. Trump, Michael Cohen, pour l'élection de 2016, bien, ça revient et le fait qu'ils ont utilisé cet argent-là, caché ça, c'est traité comme une fraude. En fait, ça a généré toute cette affaire-là, 34 chefs d'accusation différents. Première étape dans un procès, la sélection du jury. Et ils sont là-dedans présentement. Mathieu Galluzzo, avocat criminaliste à New York, est avec nous. Monsieur Galluzzo, bonjour.
Ah, bonjour.
Bon, choix du jury, on dit que dans le choix d'un jury, il faut trouver des gens qui n'ont pas une opinion préconçue. Est-ce qu'il reste dans la société américaine des citoyens qui n'ont pas d'idée préconçue sur Donald Trump, favorable ou défavorable?
Non, probablement pas. Ça serait très difficile de choisir un jury qui est vraiment juste, mais on va essayer à Manhattan. Mais oui, ça prend très longtemps, je crois, cette procédure ouais. Choisir. Ouais. Absolument.
Donc là, il faut choisir quoi? Des gens qui sont le plus impartial, le plus neutre possible, qui doivent obtenir comment ça fonctionne? Il faut que les avocats des deux côtés, là, de la couronne et de la défense, se mettent d'accord.
Voilà. On a des qui sont choisis par hasard de la communauté de Manhattan, en ce cas. Et ils sont venus au tribunal et ils doivent répondre aux questions générales, comme qu'est-ce que je fais comme travail, c'est quoi mon éducation, En ce cas, on a aussi des autres questions comme est-ce que j'ai déjà une opinion au sujet de M. Trump, s'il est coupable, quelque chose comme ça, est-ce que je déteste M. Trump? Et après qu'ils ont répondu à ces questions, les deux côtés, les deux avocats pour la couronne et pour la défense, ils ont le droit de demander des questions aux jurés, aux candidats individus, pour demander des questions spécifiques. Et après, regarde, ça marche un peu comme ça. Si quelqu'un dit, un candidat dit qu'il ne peut pas être juste, il est éliminé immédiatement. C'est automatique. D'accord? Je ne peux pas être juste, donc c'est fait.
Mais ça, mais, on nous dit qu'il y en a une soixantaine. Déjà, il y en a une soixantaine qui ont dit soit qu'ils aimaient ou qu'ils détestaient Donald Trump pour des raisons politiques et on les a enlevés tout de suite. Là.
Donc, on n'a pas de candidat. Et après ça, les deux côtés, ils ont le droit de refuser 10 à la pièce. Donc, la couronne et la défense pour éliminer 10 autres qui sont potentiels. Et donc, à la fin, ils ont une douzaine et quelques extras aussi en cas d'urgence. Mais ça prend du longtemps, je crois, parce qu'on aura tellement des individus qui vont dire qu'on ne peut pas être juste en ce cas. Et des autres qui ont peur. Regarde, beaucoup des candidats ne veulent pas être des jurés parce qu'ils ont peur que quelque chose du mal va arriver. Et donc, ça, c'est valide peut-être, en ce cas.
Ouais. Et donc, là, on va en faire venir comme ça tous les jours jusqu'à temps d'en avoir 12, ce qui pourrait prendre, vous dites, plusieurs jours.
Oh oui, ça prendrait la semaine, au minimum, je crois.
Ouais. Ouais. Après ça, le procès va commencer. Des gens se demandent, à votre avis, est-ce que Donald Trump risque la prison? Là? Est-ce que, dans le cas d'une condamnation, dans votre esprit, est-ce qu'il risque la prison? Ou est-ce qu'une amende serait le maximum, la peine maximale qu'il pourrait avoir, c'est une amende en argent?
Je crois que la prison est possible. Je ne crois pas que c'est probable.
Okay.
Normalement, quelqu'un comme ça, quelqu'un si vieux comme ça, qui est condamné d'un crime comme ça, on parlera des amendes ou des peines financières, des choses comme ça. Mais regarde, M. Trump, il a le pouvoir de recevoir une peine de prison parce qu'il attaque le juge tellement. Et il dit des choses au sujet du juge, il parle des procureurs, il parle du procès, du système de justice, il dit toutes sortes de choses. Et donc, s'il est condamné, je crois qu'à la fin, ça serait possible que le juge aura besoin d'imposer une peine de prison parce qu'il a dit toutes ces choses. Mais on verra. Ouais.
Mais je vous pose la question, si un simple travailleur, je ne sais pas, là, un travailleur de la construction ou un enseignant qui était accusé de crime avait dit tous ses propos à propos du juge, à propos de la justice, à propos des procureurs, est-ce qu'on aurait laissé passer ou est-ce que cette personne-là aurait eu des sanctions plus sévères, outrage au tribunal, peut-être même déjà de la prison à l'heure où on se parle? Est-ce qu'on a laissé passer des choses pour M. Trump en disant, ben lui, c'est un personnage public qui fait du commentaire un peu politique, mais on l'a laissé faire des attaques aux juges qui, en général, à mon avis, auraient amené un citoyen à avoir des gros problèmes, là?
C'est très difficile de trouver un vrai précédent pour ça, parce qu'on n'avait jamais un accusé comme ça. Et donc, je comprends la question, mais c'est très difficile à répondre, parce que peut-être, mais je crois que, franchement, le juge, le système, les autres juges aussi, avec les autres procès pénaux, ils ont un peu peur de cette situation, parce que peut-être, s'il était un homme typique, oui, imposer une peine comme ça, ça serait facile. Mais tout le monde a un peu peur par Trump ou de faire fâcher tous les soulageurs de Donald Trump au même temps. Et donc, je crois que c'est difficile à dire vraiment pourquoi il prend des choses. Mais peut-être, s'il n'était personne, s'il était un homme qui n'était pas président, qui n'était pas public, peut-être qu'il serait en prison déjà pour tout ce qu'il a fait, mais on ne sait pas.
Maître Galluzzo, est-ce que parce que là, Donald Trump devrait témoigner, mais bon, corrigez-moi, en défense, je pense que c'est aux États-Unis, c'est comme au Canada, alors, l'accusé n'est pas obligé de témoigner. On décide, la défense, on décide, on le fait témoigner ou on le fait pas témoigner. Pensez-vous qu'ils vont le faire témoigner? Vous, si c'était votre client, M. Trump, est-ce que vous le feriez témoigner? Est-ce que vous pensez qu'il serait un bon témoin pour se rendre sympathique au jury?
Vous avez raison. Un accusé n'est pas obligé à témoigner. Et maintenant, la défense, et j'avais défendu des accusés qui ont témoigné, et j'avais attaqué des accusés qui ont témoigné. Et je trouve qu'en général, normalement, c'est une mauvaise idée pour l'accusé à témoigner. Normalement, c'est un désastre. Ils sont sous serment, et ils font de mensonges, toutes sortes de choses comme ça. Et M. Trump, je crois, ça va être un désastre, un absolument désastre.
Ah, ouais.
Parce que oh, mon Dieu, ça serait terrible. Et je crois que ses avocats probablement ne veulent pas qu'il témoigne, mais il va dire non, je vais témoigner parce qu'il pense qu'il est tellement intelligent et charmant et toutes ces choses. Je vais expliquer pourquoi je suis innocent. Mais les avocats, je suis sûr, aïe, 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 ils ne veulent pas ça. Ça serait un vrai désastre. Les procureurs, je suis sûr qu'ils seraient très contents s'il décide à témoigner. Ouais.
Donc, vous, si vous aviez à prendre la décision, vous ne le feriez pas témoigner, à moins que lui, comme client, vous l'impose,
well,
mais vous-même, vous ne le feriez pas témoigner.
Well, pour être précis, cette décision, c'est toujours la décision du client. Et donc, je ne peux pas décider ça pour lui. Je peux toujours conseiller mon client, regarde, je crois que c'est une idée terrible. ça ne marche pas. Mais à la fin, c'est à lui à décider. C'est son droit. Et donc, s'il décide à témoigner, il va témoigner. Mais, moi, je n'aimerais pas ça comme avocat. Mais aussi, regarde, je crois que c'est possible qu'ils ont déjà décidé qu'il va perdre. Réaliser, peut-être. Il ne va pas gagner. C'est possible qu'il va faire ce qu'on s'appelle un hung jury. Parce que la condamnation doit être unanime entre la douzaine de jurys. Et c'est possible qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner avec un juré ou deux, peut-être, mais pas la douzaine. Mais donc, il va utiliser ce procès pour gagner le procès. C'est pas le bouc, je crois. Des avocats,
c'est de convaincre, c'est de convaincre, ouais, un juré ou deux là, devenir sympathique à sa cause.
Oui, oui. Il gagnera comme ça. Peut-être, mais vraiment, je crois que ce qu'il veut faire, c'est d'être élu. Et donc, s'il est victime d'un procès qui n'est pas juste, il peut dire à le reste du pays que regarde ce qui est passé à New York, c'est pas juste. Moi, je dois être président maintenant. Je sais pas. Mais je ne crois pas que gagner est vraiment le bouc. Parce que.
Mais on va suivre. On va suivre ça dans les semaines à venir. Mathieu Galluzzo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
Ah, de rien. Merci.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Alors, on a toujours pensé que l'iPhone dominait, mais voilà aujourd'hui qu'on a une manchette qui nous dit que les ventes d'iPhone sont en baisse, tant et si bien que c'est Samsung qui reprend sa place comme numéro un des téléphones intelligents et que l'iPhone doit donc céder la tête. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Denis Martel, stratège numérique, est avec nous. Bonjour, Denis.
Salut, Mario. Comment tu vas?
Ça va bien. Surpris?
Non, pas tant. Il y a quelques signaux qui laissaient déjà poindre ça. Puis de toute façon, tu sais, c'est les deux grands compétiteurs. Je te dirais que ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il y en ait un compétiteur parce que ça a été longtemps une domination.
Total, ouais. Dans le cas de... est-ce que c'est la baisse des ventes d'iPhone? Est-ce que c'est la montée des ventes de Samsung? Ou est-ce que... Et question... est-ce qu'Apple a des problèmes? Est-ce que l'iPhone est moins bon? Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales? Ou est-ce que c'est le prix?
Bon, il y a les guerres de religion. Toutes les hypothèses que tu amènes sont bonnes. On va essayer de faire le tour. Mais on parle surtout d'une baisse des ventes du iPhone. On dit qu'au premier trimestre 2024, il y aurait une baisse des ventes d'iPhone de près de 10%. C'est ce qui fait que Samsung aura pris le dessus. Maintenant, c'est les raisons, comme tu dis, qui sont intéressantes.
Ouais. Le prix?
Ben, Le prix, la compétition, il y a beaucoup de compétition. Là, c'est plus seulement que Samsung en plus. Là, c'est là le marché est saturé. Il est saturé d'iPhone, mais il est aussi saturé au point de vue de la compétition. Il y a d'autres, il y a des produits chinois qui font très bien. Puis faut même
les Huawei, là.
Garder un. Oui, ben on parle de produits chinois là, il y a Xiaomi, il y a Tencent, mais il y a aussi des produits indiens qui commencent à être de plus en plus intéressants. Donc ils sont moins chers. Puis c'est surtout qu'ils sont viables parce que le marché du téléphone portable est quand même assez important dans le monde depuis longtemps. Ici, on a moins cette perception-là parce que ça a toujours été Samsung ou iPhone. Mais il y a bien des régions, on a qu'à passer à l'Asie ou à l'Afrique, où le téléphone portable est beaucoup plus important que l'ordinateur. Puis, il existe plusieurs marques. Cela dit, des fois, au point de vue des fonctionnalités, ça laissait à désirer si on comparait avec les grands. Mais là, ça commence à... La compétition les chauffe.
OK. Les ventes d'iPhone, justement, est-ce que c'est dans ces marchés-là, les marchés émergents, Chine, Inde, que ça tombe, ou est-ce que c'est aux États-Unis? C'est-tu dans les marchés émergents ou c'est dans les gros... C'est-tu dans Europe, États-Unis, Europe, Amérique du Nord que ça tombe, ou c'est dans les marchés émergents?
C'est dans leur marché naturel, c'est dans leur marché à eux, où ce qu'ils sont bien établis, c'est ce qui fait que ça peut être inquiétant jusqu'à un certain point. Okay. Ben, y a plusieurs choses qui expliquent ça, comme je te disais. Oui, il y a la saturation des marchés, mais ce que l'on constate, c'est que le cycle d'achat entre deux iPhones est beaucoup plus distancé qu'il l'était. Je vais faire du focus group personnel.
Tout
moi, j'étais un
fanboy.
Moi, j'ai un iPhone, j'étais un fanboy d'Apple depuis le tout début. Je n'ai que des produits Apple. Puis, il y a eu un temps dans ma vie où je me souviens, puis pourquoi j'en parle sans trop me gêner, c'est que je sais que j'étais pas le seul, où c'était année après année une religion d'aller faire la file pour avoir le nouveau iPhone.
Le nouveau iPhone.
Oui, ça prenait ça. Sinon, j'étais un loser. Là, je me sentais pas bien si j'avais pas le plus récent. Puis là, je suis comme plusieurs autres clients d'iPhone.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est devenu ridicule. C'est devenu ridicule parce que le nouveau, tu sais, il disait que la caméra est un peu meilleure, mais tu fais une photo, tu t'en rends même pas compte à l'œil nu. C'est que tu te rendais compte que tu avais le même téléphone. Ça t'avait coûté 1500$ pour avoir le même téléphone.
Oui, puis tu sais, le gag, à un moment donné, c'était il ajoute des lentilles. On va se rendre à combien de lentilles derrière, tu sais, pour rendu au iPhone 20. Mais ça, pour ne parler que de l'aspect photo, Samsung a fait une sérieuse. Si on pense au S24, par exemple, de Galaxy S24 de Samsung, qui fait des images absolument somptueuses, ça a été souvent le terrain de bataille là, entre les compétiteurs. Mais t'as raison, les améliorations d'une version à l'autre ont commencé à être de moins en moins perceptibles.
Puis les prix de plus en plus sauter. Ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, ça vaut-tu le montant d'argent de la petite amélioration que je vais chercher?
Exactement. Tu fais des comparaisons, tu vois pas vraiment l'avantage. Quand tu compares en plus les produits accessoires qui viennent avec, ben là, ton case de 14 fonctionne pas avec le 15, mais tu réussis pas à comprendre le gain que t'as fait. T'as le maquillé minimum, fait que c'est des dépenses de plus.
Ouais.
Dans un contexte de récession économique, là, je te dirais que ça, tu y penses.
Ouais. Denis, parce que là, on dit qu'ils ont perdu du monde en Europe et en Amérique du Nord, dans leurs marchés fondamentaux. Ma question à moi, c'est, est-ce que c'est les jeunes, les nouveaux clients qui adoptent plus l'iPhone? Parce que, mettons, tu es avec Apple. Mettons que tu te tannes, là. À soir,
je suis vieux.
Tu te tannes d'Apple. Non, mais tu te tannes, là. Tu changes pour passer... Je veux dire, c'est ta vie au complet. Je veux dire, c'est ta vie au complet que tu changes, là. C'est-à-dire que c'est pire qu'un divorce, là. Il faut que tu repartes. Non, mais tes ordinateurs, tes fichiers, tes chargeurs, parce que toutes tes affaires étaient compatibles à Apple, là. Tu repars ta vie à zéro. Tu repars ta vie numérique à zéro. Fait, il me semble que personne fait ça. C'est-à-dire que si t'es avec Apple, tu restes. Si t'es pas avec Apple, tu y vas pas. Mais le changement, c'est toute une décision dans une vie, là.
Puis c'est un super bon point, puis c'est une des raisons qui fait que on a justement des fameuses écoles, les habitudes, hein, le changement, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Cela dit, quand tu regardes ce que les États font avec les lois antitrust, puis il y a des lois, là, comme tu as vu en Europe, là, maintenant, Apple, sur l'iPhone 15,
la charge est universelle.
Il y a une prise USB-C plutôt que la Thunderbolt. Fait que c'est le genre de choses qui fait que, puis même au point de vue des logiciels, c'est rendu de plus en plus facile quand même de migrer. Bon, Mais fait qu'il n'y a pas mandat, mais quand même, tu as raison, tu tiens un super bon point qui fait que probablement je vais mourir avec un iPhone. Je me le souhaite pas à court terme. Mais là, mais tu sais, c'est vrai que j'ose même pas imaginer de réapprendre ou même le petit désagrément de pas retrouver exactement mes fonctionnalités, mais ça se ressemble de plus en plus.
Moi, dans ma vie, là, j'ai eu un appareil Apple. C'était le nano, le petit nano avec la roulette pour écouter de la musique.
Il était terrible, il était super, par exemple, ce produit-là.
Oui, oui. C'est juste, ça fait quoi? Ça fait 30 ans de ça, quelque chose du genre. J'ai rien eu d'Apple, j'ai rien eu d'Apple depuis, fait que je suis pas dans le même, je suis pas dans le même club. Moi, je suis Samsung. Mais, je reviens au ventre, parce que on avait l'impression, à un moment donné, tu sais, qu'Apple, c'est une machine invincible. C'est-à-dire, tu sais, téléphone, tablette, est-ce qu'on pense que, je veux dire, Apple va encore rebondir? Là, bon, ils ont perdu quelques plumes, mais ils vont rebondir, reprendre du poil de la bête, reprendre le lead.
Mais tu sais, avant de donner à Apple comme une entreprise en déroute, là, on a quand même, il va se passer des choses. Tu sais, l'autre fois, je disais, juste si tu prenais seulement les AirPods,
ça serait la sixième entreprise au monde en affaire de même.
Septième, je pense que tu l'as vu aussi.
Apple, c'est la deuxième entreprise au monde derrière Microsoft. Mais si tu prends une division d'Apple, elle serait encore quelque chose comme septième entreprise au monde. Ouais, je sais bien.
Fait que tu vois, tu sais, ça fait relativiser là, une forme de déroute. Cela dit, on constate chez Apple une tendance qu'on a déjà vue après le départ de Steve Jobs à l'époque, où Apple prenait des drôles de décisions, on les voyait dans à peu près tout. Il essayait toutes sortes de choses. À l'époque, il y avait eu le Newton, le Quick Take, là, un appareil photo. Ils étaient tout le temps un petit peu trop en avance, mais aussi, ils éparpillaient beaucoup leurs efforts. On les a même vus, les gens ne le savent pas, mais Apple a déjà fait une console de jeux vidéo, hein, la Pippin. Fait qu'il était un petit peu partout. Puis là, on recommence à voir ce genre de d'étalement-là. On parle de l'auto Apple qui aurait été abandonnée. Là, on les voit qu'ils veulent explorer d'autres produits, d'autres marchés. Alors que on sent qu'ils ont un retard au point de vue, entre autres, des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle.
Associés avec Google, là?
Ben là, c'est justement, ils essayent de combler ce retard-là, mais tu sais, moi, au quotidien, pour étant un utilisateur, c'est pas encore les produits, même chez Google, où on a les meilleures performances. Cela dit, faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, mais ça va dans le sens de ce que je te dis, tu sais. Puis, chez Samsung, ben, le téléphone, avec intelligence artificielle est un élément sur lequel ils tablent pour se distinguer dans le marché depuis un bon moment.
Y a-tu, c'est une question bien niaiseuse. Puis je veux pas que tu sois partisan parce que t'as des Apple. Y a-tu des mesures qui ont été faites là, sur des critères objectifs? Le rapport qualité-prix, fonctionnalité-prix, solidité, l'accident, eau tombée dans l'eau. T'sais, y a-tu un qui est meilleur, mais sur des critères, disons, mesurables et objectifs? Parce qu'après ça, lequel que t'aimes le mieux, l'environnement, tout ça, mais t'sais, sur des critères de solidité, durabilité, qualité-prix, fonctionnalité-prix, y a-tu des études comme ça qui existent ou bien c'est comparable en tout point?
Il existe des benchmarks, c'est sûr. Cette distance-là, justement, tu sais, quand je disais tantôt, les produits sont de plus en plus viables, cette distance-là s'est réduite de beaucoup. Apple ont des produits d'une extrême qualité. Apple a toujours misé sur l'expérience utilisateur, sur l'expérience client avant toute chose, faisant passer la technologie en deuxième, puis l'expérience leur a donné raison sur cet aspect-là. Puis c'est ce qu'on voyait chez la compétition, puis c'est ce qui faisait que Android était vu comme le téléphone des geeks, le téléphone des tranches, peut-être plus même des nerds, plus que des geeks, il y a une nuance, qui fait que tout ça s'est atténué un peu, là. L'expérience est rendue équivalente chez, on peut le dire, chez ben des compétiteurs, chez Samsung en tout cas, puis la qualité du produit aussi. Donc, cette distinction-là qui appartenait clairement à Apple tend à s'amoindrir, mais c'est encore, selon moi, ceux qui, puis je le dis pas par... prosélytisme ou religion.
C'est la meilleure qualité.
Ça reste encore là, le téléphone qui offre une meilleure qualité dans bien des cas. Puis là, je vais recevoir des insultes. À cause que j'ai dit ça, c'est sûr.
Il y a des gens qui sont partisans. Il y a des gens que c'est pire que Canadien Nordique, cette affaire-là.
Il y en a qui vont le prendre personnel. Ouais.
Ouais.
Je m'expose.
Ouais. Les sorties de nouveaux, les sorties de nouveaux modèles, parce que ça, c'est l'autre affaire, là, tu sais. Ça a pu non plus, tu sais. Je me souviens d'une époque, là, tu sais, mettons, le nouveau iPhone, là, pour vrai, là. À LCN, c'était une nouvelle, c'était la nouvelle du jour, là. C'était dans les trois manchettes du matin, le bing, 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 là. T'avais le nouveau iPhone, puis t'avais du monde sur la rue Sainte-Catherine, dans une boutique, dans une file d'attente pour l'avoir. mais chez Samsung, il n'y a plus vraiment ça, là. Tu sais, les modèles se succèdent, puis tout ça. Oui, c'est dit, là. Puis, tu sais, ils vont faire une démonstration publique, mais il n'y a plus, là. C'est plus un tel buzz dans la société non plus,
hein. Plus aussi largement que ça l'était. Là encore, dans les grands centres, on voit encore un peu ça. Mais t'as raison, puis c'est explicable, comme je te disais, à cause de la petite différence dans les améliorations de fonctionnalité d'un modèle à l'autre. Donc, puis comme je te disais tantôt aussi, la disponibilité, là, le revenu discrétionnaire avec la récession est quand même rendu difficile. Là, racheter un téléphone d'une telle valeur année après année, faut que l'amélioration soit notable.
C'est rendu
donc,
combien,
oui, l'essoufflement?
Dis donc un chiffre. On est rendu combien? Justement, j'ai perdu le fil, puis souvent, ils nous les sacent dans un forfait. Mais mettons, le dernier Apple, le dernier Samsung, là, les derniers cris disponibles, on parle du 2 000 $. On est rendu dans ces ordres de grandeur-là. Mettons que tu décides, moi, je veux acheter le téléphone. Je veux pas être sur un forfait, je veux acheter le téléphone, je vais prendre un forfait après. On est dans ces ordres de grandeur-là, non?
On est dans 1 900 $. Attends, je vais te le dire. Mais t'as raison, moi aussi, j'ai perdu le fil pour te dire, là.
Ah, parce qu'on les paye jamais, là.
On parle de 1 500 $ pour le, entrée de gamme, là, chez le iPhone 15, là. Le Max, doit être encore plus cher que ça. Il est 1 800. Le iPhone 15 Max, donc ça, c'est le plus gros. Il est à 1 800 $.
Ouais. Plus taxes. Plus taxes. 2 000 $ pour un cellulaire.
Comme faux. Ouais. Ça, chez Samsung, ben écoute, moi je n'achète pas de Samsung, fait, je le sais pas, mais je vais m'amuser à aller voir si tu me donnes.
Mais Samsung, il y en a un. Samsung, là, il m'en a offert un, parce que là, moi je suis Samsung, il m'en a offert un l'autre jour, il me disait qu'il me donnait un rebais, puis il était en haut de 2 000, mais c'était un super, je sais pas quoi, le 30, quelque okay. chose, il avait l'air de...
Ils sont fins, hein? Ils sont gentils.
Oui, il me donnait un rabais de 100 piastres, ça m'a coûté quand même 2100 ou 2200, quelque chose de même. J'ai dit, sais-tu malgré le beau cadeau? Malgré le beau cadeau, je me saute un tour si ça te fait rien.
Faut que tu dises merci dans ce temps-là, Mario.
Oui, c'est ça. J'ai dit, comment tu dis ça? Thanks, but no thanks. Merci, mais non merci. Hey, Denis, merci beaucoup.
Fait plaisir.
Salut, à bientôt.
Salut, bye.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
C'est une nouvelle de dernière heure qui est tombée là dans les dernières minutes. Il y aurait eu un grave accident. Tout ça se déroulerait au stade olympique. Un travailleur qui serait tombé dans une conduite d'aération, ni plus ni moins, serait dans un grave état. Là. Dans un état, là, on dit, entre la vie et la mort. Là. Puis quand c'est une conduite d'aération, c'est pas clair. Hein? On est juste au pied du mât du stade. Et là, ben vers 12h20, on dit, c'est... Tu sais, quand une chute, conduite d'aération, ça doit être vertical parce qu'on parle d'une chute de quelque chose comme une trentaine de pieds là-dedans, dans lequel il a fallu là, aller le chercher avec des pompiers spécialisés dans des sauvetages, dans des espaces clos. Là. On se comprend que ça, c'est... Faut que tu descendes.
Je peux même pas y penser. Faut que je pense à d'autres choses.
Oui, claustrophobe un peu, ses bords.
Hey, tomber dans un tunnel vertical où t'es enfermé, là.
Ouais, c'est comme tu tombes dans un puits, là, ce qui est souvent l'espèce d'horreur ultime à tout le monde. Là.
Mettons que t'as mal en plus, là, que tu t'es cassé des membres en descendant, que t'es coincé là dans le fond.
Ou que t'es tout simplement inconscient, comme on peut deviner que c'est le cas en ce moment.
Ben, ça dépend, ça, on sait pas. Ça dépend si tu te cognes pas la... Si t'arrives, si tu tombes vertical, tu te cognes pas la tête, là, tu peux te briser des membres inférieurs, puis...
Ouais, c'est vraiment histoire d'horreur, là, survenue à 12h20. Toutes nos pensées que le travailleur, bien évidemment, là, c'est... L'histoire qui donne froid dans le dos parce que là, il y a très peu de détails pour l'instant sur les circonstances de comment ça s'est passé.
Dans ces cas-là, ils gèlent toute la scène, la CNESST arrive, les enquêteurs spécialisés en accident de travail.
Oui, exactement. Là, ils sont en train, d'ailleurs, la CNESST a été avertie, sont en plein déplacement pour se rendre sur place. Donc, on ignore aussi là, qu'est-ce que le travailleur faisait là à ce moment-là, c'était quoi le travail exact. Mais aussi, chanceux d'avoir été repéré. Là. Tu tombes dans un trou, une trentaine
tout
de
seul.
Pieds, tout seul. Il n'y a personne qui le sait.
Arrête.
Voilà. Bon, fait que histoire, ça donne froid dans le dos de Mario puis à moi aussi.
Mais coincé de même là.
En espérant que le travailleur, bien évidemment, s'en sorte. Plus de détails plus tard, assurément, sur cette histoire là.
Tout savoir en 24 minutes.
Sinon, mais ce que fait pas mal jaser depuis le retour de la fin de semaine, c'est le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qu'il a tenu dimanche à l'occasion d'un sommet, là, Conseil national du Parti québécois, qui portait officiellement sur l'habitation à Drummondville, mais qui a fini par devenir vraiment un vibrant plaidoyer pour un futur référendum, la survie du Québec en dehors du Canada. C'était tout un discours que tenu Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était... qui a fait réagir pas mal parce que ça a brassé, il a jeté les gants, littéralement.
Il garde sa capacité, disons, à occuper le centre de la scène politique. Ça, c'est fait. Porte un jugement sévère sur le Canada. Trop sévère. Je dois avouer que moi, je suis rendu pas mal sévère aussi là, sur la trajectoire que prend le Canada, que je ne comprends plus, bien honnêtement, sur le poids du Québec dans le Canada qui fond comme neige au soleil. Pourquoi? Parce que l'immigration à Vancouver, à Toronto, c'est unique au monde. Là. C'est tellement fou, tellement pété, tellement en dehors de toute normalité que, je veux dire, la population du Canada augmente à un rythme que le Québec ne suit pas. Ce qui fait que le Québec, mais je sais pas si les gens réalisent à quel point ça diminue vite. Mettons, on était 25% du Canada. Là, en 20-30 ans, on est devenu 24. Après ça, en 20-30 ans, on est devenu 23. T'sais, on baisse tranquillement. Là, parce qu'il y a plus d'immigration ailleurs. Mais de 23 à 22, là, on est 22.0. Le dernier recensement, le flush, 22.0. Mais ça s'est fait de 23 à 22, ça s'est fait en quelques années à peine, là, oui. 6-7 ans. 5. Et là, on dit que de 22 à 21, au rythme où ça va se faire en quelques années, là, en 2028, 2029, 2030. Là, on baisse de 0.1, 0.2 par année, là. Fait que sur 6, 7, 8 ans, un autre point. Donc, à ce rythme-là, c'est-à-dire, dans quelques décennies, le Québec va représenter moins de 20% de la population du Canada. Alors, la lecture que fait Paul Saint-Pierre Plamondon dans l'ensemble de la place du français, de la place du Québec dans le Canada, je la partage passablement. Ce dont je suis moins sûr, c'est que là, lui, il dit, écoute, là, le référendum, on est parti, on est rendu là. Le référendum, c'est une certitude qui va avoir lieu dans les prochaines années. Ben là, ça, c'est comme dire que c'est une certitude que le PQ va être élu.
Ouais, mettre la charrue avant les bœufs un peu là-dessus. Là.
Ben là, je veux dire, je veux rien enlever au Parti québécois qui performe bien dans les sondages, mais là, on est à 2 ans et demi des élections. Je veux dire, j'ai déjà vu des partis être d'avance dans les sondages 6 mois avant les élections, puis perdre les élections. Tu sais, on est loin. Puis là, est-ce que le PQ est devenu une machine de guerre, là? T'sais, est-ce qu'ils ont, mettons, présentement une cinquantaine de candidats vedettes, dont 30 qui formeraient un conseil des ministres? Est-ce que c'est... Wow, on est loin de ça. Donc, il y a un bout où... Puis après ça, il dit, ouais, puis c'est notre dernière chance, là, ça aussi. OK, après moi, le déluge, si nous, on réussit pas, personne va réussir après. Fait que... Je l'interprète... je pense pas... Soit qu'il l'a échappé, là,
Il s'est emporté
dans l'enthousiasme des militants. Moi, je pense pas. Parce qu'il a pas l'air d'un gars si émotif. Moi, je pense qu'il a surtout voulu brasser la cage. C'est la souveraine. L'aiguille du PQ a monté là, de 10% il y a un an et demi. Il était à 10% des sondages. Ils ont monté à 34% dans le dernier. Mais l'aiguille de la souveraineté bouge à peu près pas. Et je pense que c'est ça qu'il veut secouer. Il veut secouer une espèce d'apathie. Il veut faire monter l'appui à la souveraineté. Mais, je suis moins sûr. T'sais, d'avoir l'air d'être sûr de gagner la prochaine élection, là, ça me paraît un pari risqué. Là, parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'air de se penser trop sûr du gars qui se pense trop sûr de gagner pour que les appuis se mettent à descendre.
Ouais, en même temps, l'émotivité, le coup justement d'y aller avec cœur comme ça va peut-être brasser des gens, peut-être intéressés aussi, plus proches à la question de la souveraineté.
Mais ça va galvaniser les troupes, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que les militants du PQ qui sortent de ce congrès-là, là, ils portent plus à terre. Là. Ils sont sur le sentier de la guerre, plus confiants que jamais.
Puis il y en a qui sont vraiment... c'est comme quand le Canadien, tout d'un coup, fait une série, puis ça fait des années, puis ça a déjà été glorieux, puis là, ça fait longtemps.
Ça le revient. Ouais. L'autre affaire, c'est qu'ils ont dû clarifier leur position sur le troisième lien. Et là, finalement, c'est clair, il n'y a pas d'auto. Dans aucun scénario, aucune circonstance, c'est un troisième lien sans auto. Moi, personnellement, je pense que ça veut dire pas de troisième lien. Je peux pas croire que tu vas creuser un tunnel juste pour passer du transport en commun. Le coût de construction d'un tunnel pour... que tu, à mon avis, si tu dépenses ces sommes-là, tu vas passer une voie de circulation, tu vas passer des autos.
Ouais, tu mets juste des transports en commun qui sont extrêmement déficitaires. Malheureusement, là, rien contre des transports en commun, au contraire.
Mais qui sont déjà déficitaires, ouais, ordinaires. En plus, tu mets un tunnel de 4 millions, t'imagines-tu comment l'opération va être déficitaire? Pour 100 ans, pour 200 ans, ça va être déficitaire.
Ah oui, puis ça, c'est s'il n'y a pas de dépassement de coûts sur le plus gros tunnel du monde.
Mais là, ça serait plus le plus gros. Ça serait un petit tunnel.
Mais là, on le veut plus d'abord.
Mais là, si on passe juste un petit tramway, c'est un petit tunnel.
Actualité.
Sinon, durant la fin de semaine, ça a brassé aussi au niveau des négociations avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Hein, la FIC qui a refusé la nouvelle convention collective à 61% quand même, là, pas si serré que ça dans un vote comme ça, alors qu'on déplore là, du côté des infirmières, particulièrement le flou qui demeure autour de la flexibilité qui est demandée de la part du gouvernement de la coalition Avenir Québec. Parce que on se comprend, c'est comme un des mots d'ordre de la réforme de l'Agence Santé Québec, c'est d'être capable d'être plus flexible, de demander plus de flexibilité. Mais ça,
ils disent pour amener le personnel là où sont les besoins, pour éviter de fermer des départements ou des urgences, pour pouvoir déplacer du personnel aux besoins. Les syndicats ont parti une campagne de peur que là, on allait prendre une infirmière en néonatologie, puis on allait l'envoyer aux soins intensifs, les envoyer dans des départements qu'ils connaissent pas, mettre la santé du public en danger.
Mais pas juste des départements, aussi...
Dans des îles d'autres établissements. Là.
D'autres établissements, là, on pourrait parler, le rayon, par exemple, la région de Montréal, c'est un rayon de 25 km en région ailleurs, c'est comme 35 km, mais 35 km, c'est... D'un coup, t'es transféré, t'as ta maison, une place, faut que t'ailles porter la petite à la garderie, une autre. C'est ça qui est déploré, là, du côté trafic.
Mais de l'autre côté, ils avaient obtenu d'autres gains pour ça, parce que là, on comprend que le comité de négociation, là, les dirigeants syndicaux avaient accepté l'entente.
Oui.
Là, c'est les membres qui la rejettent. Là, on dit du côté de Mme Bouchard, la présidente, ah, ben là, je comprends, les membres, la mobilité, ils en veulent pas, on retourne négocier. Ben, excuse, on retourne négocier quoi? Là? Qui retourne négocier quoi? Le gouvernement se reçoit à la table avec quelle intention? C'était réglé, c'était signé. Moi, si je suis le gouvernement, écoute, ils sont chanceux de pas m'avoir à la table. Moi, si c'était le gouvernement, je dirais, bon, ben les augmentations, tout ça, il n'y a plus rien, là. Je veux dire, on laisse courir, c'est fini. Faites des grèves, faites ce que vous voulez. C'est fini. L'entente était sur la table. C'est comme la Sûreté du Québec là, qui ont refusé le 21%.
Ouais, ça.
Mais
ouais.
Non, mais je leur dirais, ben là, c'est plate, là. C'était sur la table, ça y est plus. Parce que là, les gens prennent pour acquis que si tu refuses une entente, c'est devenu trop facile. Tes négociateurs votent quelque chose. Puis là, les membres se disent, ben, on va dire non à ça. On va obtenir peut-être un petit peu plus, tu sais.
Oui.
Il va falloir qu'un jour, quelqu'un obtienne moins. Que le fait d'avoir refusé l'entente, tu dis, oh, Colin, on a laissé ce qu'il y avait sur la table, puis on a eu moins, pour faire penser, pour que dans les votes futurs, au moins les gens fassent la bonne réflexion. OK, on a ça sur la table. Parce que si tu dis, je le prends ou je le prends pas, mais que je le prends pas, c'est, ah, oh, je vais avoir plus. Mais là, tu le prends jamais. Tu dis, tu votes toujours non, je vais voter. Si tu me dis que je vais avoir plus, je vais voter non à toutes les ententes. Fait qu'il faut qu'un jour, là, dans l'histoire syndicale du Québec, qu'il soit inscrit une occasion. Puis là, on a deux, là. Mais la FIC puis la Sûreté du Québec. Inscrit une ou des occasions où, tabarouette, au vote, là, les membres ont refusé l'entente que les dirigeants syndicaux avaient négociée. Puis l'entente n'est jamais revenue. Les augmentations de salaire prévues, là, ils sont jamais revenus.
C'est vrai que ça sonne plus comme des négociations. Ouais. C'est plus comme on présente quelque chose, on dit non, on retourne. On présente quelque chose, on dit non.
C'est un élastique que tu tires toujours du même bord. Faut qu'à un moment donné, il y a l'élastique qui pète. Fait que là, à l'avenir, toutes les assemblées de syndiqués futurs, ils vont se dire, ouais, l'élastique, tu viens-tu que il y a 5 ans, il y a 8 ans, l'élastique, il avait pété. Mais là, l'élastique a jamais pété. Le gouvernement, comme c'est notre argent, le gouvernement, on va rajouter un petit peu. J'ai hâte de voir ce que va être la suite dans ce cas-ci.
Tout savoir en 24 minutes.
Aujourd'hui, le procès en diffamation intenté par la Sûreté du Québec à l'endroit du reportage de l'émission Enquête se poursuivait. Là, je rappelle un peu les faits. Reportage choc de l'émission de Radio-Canada Enquête en 2015, dans lequel la journaliste dans cette histoire-là allait donner, là, Mme Josée Dupuis, la voix à toutes sortes de femmes autochtones de Val-d'Or en Abitibi qui disaient avoir été là, victimes de violences physiques, violences sexuelles de la part des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient dans le coin à ce moment-là. Et ben, y a toutes sortes de doutes qui sont soulevés en termes du procès, là. Les membres de la Sûreté du Québec poursuivent pour 3 millions de dollars en diffamation en disant que c'est pas complètement exact, là, ce qui a été dit dans ce reportage-là. Et aujourd'hui, témoignage assez intéressant et important. Merci, là. Un expert en journalisme, M. Marc-François Bernier de l'Université d'Ottawa, qui a rendu...
C'est un prof de journalisme.
Ouais, prof de journalisme, qui a rendu quand même un rapport de 90 pages dans lequel, mais lui, dit ne vraiment pas être convaincu que ce reportage-là a été fait dans les règles de l'art, là, dans les règles, donc, de la déontologie journalistique. Il explique, entre autres, mais que la journaliste a donné la parole, oui, à toutes sortes de femmes autochtones, sans jamais faire de contre-vérification sur les agressions, ouais, par exemple, de nature sexuelle.
Les cas plus graves, c'est une femme qui se contredit elle-même, qui raconte une affaire après ça à la journaliste, là, pas se contredit à une tierce, à la journaliste, dans ce que la journaliste obtient, elle obtient des déclarations contradictoires.
Oui, deux témoignages différents.
C'est ça. Alors, choisis une qui va dans le sens, là, t'sais, de son reportage, de dire c'était écœurant, la police, tout ça. Puis elle vérifie pas les faits. Elle vérifie pas, OK, mais là, j'ai une témoin, j'ai une personne qui me dit deux choses, pas nécessairement complètement contradictoires, mais clairement différentes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut que j'aille vérifier. Non, tu prends la version qui rentre dans ton histoire. Et je pense que c'est un peu ce que Bernier dit. C'est comme il laisse entendre que... T'sais, il parle entre autres du titre, là, qu'on a fait un titre accrocheur. Ben, comme si tu pars d'une intention, ouais, de faire un scandale.
Parce que le titre, c'était « Abus de la SQ, des femmes brisent le silence ».
C'est ça. Fait que tu pars avec le titre, puis après ça, ben, tu rentres les ingrédients qui alimentent ton affaire, plutôt qu'à l'inverse, là, partir des faits, puis remonter, bâtir un solage solide de faits, puis après ça, arriver à une conclusion.
Oui, puis il arrive même à dire, hein, qu'il y a beaucoup d'allégations qui étaient amenées dans le reportage, qui dataient d'il y a quelques années, là. C'était des femmes qui venaient raconter une histoire qu'elles avaient vécue il y a 2, 3, 4, 5 ans.
Et puis là, et qui dataient de la vieille police municipale de Val-d'Or.
Ben c'est ça, c'était même pas la Sûreté du Québec qui était là à ce moment-là, donc c'est les abuseurs dans cette question-là.
C'est des gens qui étaient retraités de toute façon d'un corps de police qui n'existe plus.
Exactement. Donc c'est toutes sortes de questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc, je rappelle, la Sûreté du Québec, c'est eux veulent 3 millions de dommages pour diffamation autour de ça, en disant qu'ils ont vraiment vécu une pression sociale, là, de la part de la population, ni plus ni moins, là, après la publication du reportage, comme ils se sont fait traiter de tous les noms autour de ça. Bref, témoignage intéressant. Le procès n'est pas fini, mais quand même, ça lève le voile, là, sur qu'est-ce qu'en pensent certains experts, là, sur différents reportages. Là, on le sait à l'interne dans les médias, nous, pour travailler là-dedans, on le sait qu'il y a des avocats qui vérifient, qu'il y a toutes sortes de personnes autour, là, de la construction d'un reportage, qui font des vérifications. Ouais,
mais les médias privés, tu sais, Radio-Canada a été condamné quand même plusieurs fois, puis c'est toujours bizarre quand Radio-Canada est condamné, tu sais, c'est les contribuables qui payent. Ça,
c'est vrai que théoriquement, oui. Hein.
Mais oui.
Bon, on verra ce qui arrivera.
Non, mais je sais pas qui, tu sais, la journaliste, elle doit... T'sais, Mme Dupuis, elle se défend, puis elle, c'est sa carrière, puis c'est sa réputation. Je dis pas qu'ils prennent pas ça au sérieux, puis bon, les gens à Radio-Canada sont professionnels, mais il reste que... Moi, j'avais suivi un procès là, où ils avaient payé, ils avaient fait un reportage complètement biaisé, unidimensionnel, avait même pas... T'sais, leur défense avait été pitoyable, la personne avait obtenu de l'argent, mais t'sais, c'est contribuables qui payent.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Une autre histoire, Mario, de voyage dans le sud qui tourne complètement au cauchemar pour une Québécoise. Là, après qu'on ait eu toutes sortes, là, de témoignages, on s'en souviendra, là, des gens qui sont allés à Cancun, des gens qui sont allés en République dominicaine.
Il y avait eu beaucoup de cas en République dominicaine ces derniers temps. Là.
Beaucoup de cas, là, de gens qui disent s'être fait droguer à leur insu dans l'affaire.
Mais cette fois-ci, cette femme de la Beauce, c'est au Mexique.
Ouais, exactement. Elle qui logeait, là, dans un complexe 5 étoiles, le Planet Hollywood Cancun, le 8 décembre dernier. Cynthia Ford, qui était d'ailleurs au micro de notre collègue Sophie Durocher plus tôt aujourd'hui pour parler de son histoire, là, j'allais dire mes aventures, mais vraiment le voyage d'horreur, là, qu'elle a subi. Elle est sortie pour ses 45 ans dans un bar, sort avec des amis et a dit, là, s'est fait droguer dans son verre, disparaît complètement de la carte, rentre comme dans une porte quelque part. Elle ne se souvient de rien. Quand on la retrouve 2 heures plus tard, elle a le visage complètement tuméfié. Là. C'est fait vraiment le frapper.
La photo est à la une du journal ce matin. On la voit présentement. C'est quelque chose. Là.
Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis en plus, ben, elle se sent droguée. Là, on se comprend de la difficulté à interagir à ce moment-là. Il se rend compte, ben, qu'elle a été agressée sexuellement. Ses sous-vêtements souillés à l'envers, remis sur elle. Elle a des douleurs. Bref, essaie d'avoir un soutien à l'hôpital, un soutien de la police. Et là, c'est un peu le même scénario qui se répète, là, le modus operandi qu'on a vu dans d'autres histoires du genre. L'hôtel qui collabore pas vraiment.
Mais l'hôtel qui collabore pas, elle a raconté à Sophie que quand elle a appelé la police, l'hôtel n'a pas permis, mais ça, je veux dire, ça fait pic-pic, là, tu dis, oui. L'hôtel n'a pas permis aux policiers, elle dit c'est un endroit privé, tu n'as pas permis aux policiers d'aller enquêter ou d'aller la rencontrer.
Oui, et là, disent qu'il ben, y a
l'hôtel n'a pas laissé circuler les policiers sur leur prémisse, là, sur leur terrain.
Exactement, puis là, ben...
Les policiers, semble-t-il, ont respecté ce vœu-là.
Oui, dit qu'à l'hôpital, les policiers sont pas plus venus prendre sa déclaration à ce moment-là, donc elle a essayé de passer par la Sûreté du Québec, revenue ici, mais eux ont pas juridiction là-bas, peuvent pas intervenir du tout. Donc, c'est une autre histoire, malheureusement, qui va sans doute rester lettre morte, mais...
Mais moi, je pense qu'il va y avoir une pression à mettre là, sur les voyagistes. Je sais que c'est pas de leur faute, puis ils veulent pas ça. Mais il y a des gens qui vendent des voyages. Là. Ils sont c'est pas les grossistes en voyage au Québec, au Canada, sont une dizaine. Voyage Air Transat, Voyage Air Canada, voyage... C'est... Pas que eux, mais eux, minimalement, refassent, mettons, à veille de la saison prochaine, refassent le tour des hôtels en disant « Nos clients sont inquiets. » On a beaucoup de plaintes.
On peut savoir votre collaboration, gage de transparence.
Et quand même que l'association des grossistes en voyage soit assez nerveux, qui appelle le gouvernement fédéral, puis qu'ils disent là des pays comme la République dominicaine, le Mexique, faudrait que les... Parce que ça les doit aux mauvaises places, là, hein, les délégations canadiennes, les ambassades canadiennes, puis les services extérieurs canadiens, eux pourraient mettre une pression, là, dire là, nous, on a beaucoup de plaintes, puis qu'est-ce que... Parce que c'est sûr que si la police dans des zones touristiques sait que le gouvernement du Canada est de mauvaise humeur, puis les surveille, puis enquête sur leurs enquêtes, ils aimeront pas ça. Là. Eux autres veulent garder leur industrie touristique, c'est de l'argent qui rentre dans le pays. Mais il va falloir qu'il y a pas de solution, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose minimalement pour rehausser le niveau de sécurité des voyageurs qui vont dans ces zones-là. T'sais, ensemble, là, les Québécois, on laisse plusieurs millions par année dans le sud, là, fait qu'on on mérite qu'il nous arrive pas des affaires comme ça.
Ouais, exactement. La pression, elle doit arriver, puis elle doit arriver vite, parce que sinon, on va en avoir d'autres là, de ces histoires-là, malheureusement.
Économie.
Ça avait déjà attiré mon attention, mais là, c'est diffusé un peu partout dans les médias, Mario. Produit au Costco, qui est vendu, puis qui est de plus en plus populaire avec tout ce qui se voit aux nouvelles, justement. Hein? Des guerres, des catastrophes naturelles, des pandémies, amenez-en des problèmes.
On n'est jamais trop prudent.
On n'est jamais trop prudent, et c'est pour ça que Costco, désormais, vend des kits de survie. Mais pas flashlight, une tente, puis non, de la survie alimentaire. Des énormes sets de produits qui sont asséchés, si on veut, là, des produits qui peuvent se garder déshydratés pendant des années et des années. On dit 25 ans minimum, puis c'est des palettes, là, si vous en voulez, énormes, là. Pour celui de 14 jours, c'est 259,99.
Ah, c'est pas cher.
Mais ça peut monter. Là, si tu veux avoir ton produit complet là, pour 5400 rations complètes, tu peux payer...
5400 rations, ça veut dire quoi? C'est une coupe de... C'est un an, ça?
Ben, ça tu peux tenir quasiment des années avec tout ça. Là, parce que là, c'est 432 portions de pâte Alfredo, 432 portions de ton macaroni au fromage, puis là, de la soupe, des tomates, du pudding, du riz, tous des produits de base là, que tu peux garder, puis ils sont là en centaines et en centaines de copies. Donc, c'est quand même quelque chose de voir que ça a une certaine popularité. Aux États-Unis, je m'y serais attendu, là, c'est quand même le genre de produit qui est prisé des mouvements survivalistes, entre autres des gens qui pensent que
mais
demain
ça,
matin...
Mais ça, c'est 3 ans, là. C'est 3 ans qu'une famille de 4.
Oui. T'es format.
3 ans.
Un 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois.
C'est juste tu vis où? Mais toi, ça veut dire que là, t'es enfermé, plus de magasin pendant 3 ans?
Ouais, mais ça coûte 13 981 $ le format 3 ans, quand même. C'est onéreux.
Faut que tu t'achètes une toilette chimique avec un bon réservoir pour ton...
Mais c'est ça, ton bunker, après ça, ça te prend un bon bunker pour surveiller tes produits.
Ouais, parce que là, ton bunker, il finit qu'il sent fort, là.
Ouais.
T'as plus le goût de manger ta chaudière, là.
Non, exactement, mais c'est quand même fou. Puis tu vois, au-delà du rigolo de ces produits... Mais ça a une certaine popularité.
Il y a des gens qui achètent ça.
Ouais, puis il y a plus de gens qu'on y pense. C'est vraiment un best-seller du Costco, un bon vendeur. Puis on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont inquiets par le contexte actuel, assez pour vouloir se constituer des réserves.
Mais mettons.
Mettons.
T'achètes ça. Puis mettons, au bout de 4 ans, là, je veux dire, il n'est rien arrivé. Là, tout va bien, la vie, la rue est là, l'épicerie, tu prends ton char.
Tu peux prendre une coupe de Porte Alfredo?
Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que quelqu'un comme moi qui est gratteux et qui haït ça, avoir de quoi, qui traîne dans le garde-manger et qui n'a pas été mangé, ou qui traîne dans le fond du congélateur et qui n'a pas été mangé. Mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, chérie, ça vient de s'éteindre, là, on a acheté ça pour rien. Fait que pendant les 3 prochaines années, on mange les chaudières.
Ça peut devenir drabe.
Fait que tu manges les... Renomme-nous donc, là, l'excellent.
Là. Alors, on pourrait se prendre des portions là, du gros à savoir de cassonade, des céréales musquerins, du riz espagnol, de la semoule au cheddar, des haricots au riz, des pâtes au beurre et aux herbes, du riz au lait crémeux, du ragoût.
Ça, t'en as 540 chacun, genre?
Ah ben là, ça, c'était le petit... Ça, c'est le petit format pour une couple de jours. Mais là, si tu veux le gros puis le vrai, là...
C'est 540 portions chaque, là.
Ouais, à peu près, c'est 432 des fois. Tu vois, le riz, 360. Le pudding, 560. 76 portions. Là. Oh, ça, on est gâté pas mal. Il est tout à vanille, par contre. Le pot au chocolat.
C'est dégueulasse.
Tout pas mal, moins le fun. Et, attention, du jus d'orange 576 aussi. Ça, t'as ta vitamine C. T'attraperas pas le scorbut de sitôt si demain matin, c'est la fin du monde, Mario.
Le monde.
C'est aujourd'hui que s'ouvrait officiellement le premier procès pénal d'un ex-président américain, Donald Trump, qui fait face à la justice pour le seul de ses procès, véritablement, là, qui a des chances d'avoir tout son cours d'ici les prochaines élections américaines. Parce que c'est pas le seul procès pénal dans lequel M. Trump va se trouver embourbé, mais c'est un des seuls qui a pas réussi à être retardé et repoussé par ses avocats. Et c'est celui, mais qui l'oppose à cette vedette du X, Stormy Daniels, qui dit avoir eu une relation extra-conjugale avec lui il y a de ça plusieurs années, et en 2016, juste avant les élections, on aurait donné de l'argent à Mme Daniels pour qu'elle se taise, hein, du hush money, comme ils disent en anglais. Et c'est là-dessus que se joue ce procès-là, qui commençait aujourd'hui non seulement avec A, ben, une présence de M. Trump au tribunal, mais B...
Mais là, on dit que la présence, là, le procès pourrait durer 5-6 semaines, puis il est tenu d'être là tout le temps.
Il est tenu d'être là tout le temps. Parce
ça va pas tellement bien pour les tournées électorales.
Ben, c'est ça, puis c'est ce qu'il dénonce aujourd'hui, Mario, en disant que c'est une attaque contre l'Amérique de ne pas le laisser aller faire sa campagne électorale contre le vilain Joe Biden. Évidemment, c'est
qui lui fait du 16 heures par jour sur le... Non.
Il fait du 16 heures, il est-tu capable?
Sur le sentier de la campagne, je pense pas.
C'est beaucoup de campagne électorale.
Finalement, personne fait campagne.
Finalement, peu de monde font campagne, Mario, mais non, il est tenu d'être là parce que son procès au civil, il faisait des apparitions une fois de temps en temps, mais ses avocats le représentaient la majorité du temps. Là, il doit être présent. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un des surnoms qu'il a donné à Joe Biden dans les dernières années qui est revenu lui mordre le postérieur.
Mario. C'est-à-dire?
Mais aujourd'hui, sur X, anciennement Twitter, un des disons, là, des chants qui étaient trending là, dans les plus visionnés, les mots-clés qui revenaient le plus, c'était Sleepy Don.
Il n'a pas dormi au procès?
Ce qui paraît, il cognait des clous. Il était tanné, les yeux fermés.
Il a mal dormi, nerveux hier soir.
Voilà, donc semble-t-il qu'il cognait des clous, fermait les yeux, avait l'air de s'assoupir. Donc Sleepy Don, c'est revenu aujourd'hui. Puis c'est un procès qui va être sous haute sécurité, on se comprend. Il y a des manifestations, contre-manifestations proches du tribunal. Et là, aujourd'hui...
Mais là, ce qu'on cherche, c'est des jurés qui n'ont pas d'opinion préconçue sur M. Trump.
Y a-t-il quelqu'un à la maison qui a ça, des opinions pas préconçues sur M. Trump qui pourrait nous aider? Honnêtement, ça doit être dans les recherches de jury les plus difficiles de l'histoire.
Mais il dit que ça pourrait prendre 5, 6, 7, 8 jours. Parce que c'est 96 personnes par jour qui font venir. Là, il les trie.
Et c'est demander
mais
à quelqu'un.
Rapidement, aujourd'hui, on avait éliminé une soixantaine de les deux tiers parce qu'il disait, nous autres, Trump, soit on l'adore, soit on le déteste. Puis ça réglait le cas tout de suite. La cause de ces jurys-là n'était pas admissible. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal.
Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mario Dumont.
Comme on dit en québécois, que ça a fessé. Là.
La rencontre Maréchal Dumont.
Je sais pas comment on va y arriver.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Tu me parles de fraude sur Internet parce que tu as failli y goûter.
Oui, exactement. Écoute, c'est un gros week-end pour les fraudeurs fin de semaine. Ben oui, parce que visiblement, j'ai vu que j'étais pas toute seule puisqu'il y avait un article dans le journal en fin de semaine où une dame dans la région de Québec s'était fait... En fait, elle avait été, elle, utilisée pour arnaquer des gens sur Marketplace. Fait que c'était un peu le même genre de fraudeur. Moi, ce qui m'est arrivé, je magasinais un set de patio sur Marketplace. Moi, j'aime bien Marketplace.
Donc, tu magasinais un set de patio usagé.
Usagé, 300$, tu sais, pour le chalet. Je me suis dit, bon, magasinons, c'est tellement cher des magasins. Tu allais voir des magasins, je fais un aparté, c'est épouvantable, épouvantable. Bref, je me dis, il y a de l'allure, bon prix, je vais aller voir, c'était pas très loin de la maison. Je communique avec le vendeur. Je savais pas encore que c'était une fraudeuse. Puis je suis allée voir son profil. Ça avait l'air d'être un nouveau profil. C'est une dame, tu sais, qui avait. Je l'ai mis sur ma page Isabelle Maréchal officielle. Si les gens veulent aller voir, je l'ai donné. Je sais pas si on a été en mesure de le sortir. Je l'avais donné à l'équipe. Mais bref, tout ça pour dire que ça avait l'air tout à fait
Ego
normal.
Ego boss, ego boss.
Voilà, tu sais, c'est comme tu vois que c'est une dame.
C'est un drôle de nom, non?
Ben oui, il y a ça. T'sais. C'est comme, tu te dis, bon, je suis allée voir après avoir communiqué avec elle quand même, quand j'ai commencé à avoir un petit doute. Mais elle me dit, donc, cette personne, écoutez, j'ai tellement de monde là, qui... Ça arrive. Moi, je suis souvent sur Marketplace. C'est vrai que souvent, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que c'est premier qui a répondu.
Souvent, les gens ont eu 10 demandes dans l'heure.
Oh mon Dieu, fait qu'elle m'a dit, j'ai beaucoup de demandes. Fait que là, si vous voulez, pour être sûr que je vous le garde, faites un dépôt de 100 $. Fait que là, j'ai fait, non. Je vais plutôt aller vous voir. Donnez-moi votre adresse. Puis, elle me donne son adresse. Elle dit, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup de demandes. Donc, si vous voulez pas donner 100 $, au moins donnez 50. Alors, j'ai même communiqué avec elle et là, plus rien. J'ai dit, de toute façon, je suis en route. Elle me dit, donnez-moi 50 $ pour éviter tout désagrément. Elle communique en anglais, on se parlait en anglais, bon, c'est correct.
Ça, c'est son message.
Ça, c'est son... Ouais, c'est ça.
T'as tout gardé, là.
You can make
t'as
100...
tes preuves.
Ouais, ouais. You can make 100 down payment now so I can mark it as sold and hold it for you because I am having overwhelming inquiries on my side, honestly. C'est tout plausible, cette affaire-là, tu sais. Fait que là, moi, je lui dis, ben, I would like to see it first. Si ça te dérange pas, t'sais. Et je lui dis, on est vraiment proche, on est à 15 minutes. Fait que j'y vais, ding-dong, je sonne à l'adresse.
Par rapport.
Qui est à Ville-la-Salle, donc à 15 minutes de chez nous. Et là, c'est Marie-Ève, une gentille enseignante, qui vient de se réveiller de sa sieste avec sa fille qui était trop mignonne. Puis elle me dit, oui, un peu étonnée de me voir. Et puis elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, ben, je viens pour votre set de patio. Oh, j'ai pas de set de patio à vendre. J'ai d'où ça de ça? Parce que... c'est bien l'adresse, je regarde et tout. J'ai dit, et je viens de me faire attraper. Heureusement, ça aurait pu être pire. J'aurais pu payer 100 piastres.
Tu l'aurais perdu. Tu t'aurais fait voler 100 piastres, tout simplement.
Mais elle, Marie-Ève, écoute, j'avais dû être la première. C'est probablement que la fraudeuse venait de mettre cette annonce-là. Puis qu'elle enlève, parce que la dame de Québec, là, qui a servi d'adresse, finalement, il y a plein de gens qui sont allés sonner. Là. Puis le monde n'était pas de bonne humeur. Moi, écoute, j'ai pris une photo avec Marie-Ève. Je l'ai mise sur mon Facebook avec sa permission. Elle était contente. Et regarde, on a trouvé ça drôle parce que on s'est dit, ça pourrait être pire. Mais dans le fond, ma chronique aujourd'hui, c'est pour dire aux gens, faites attention parce que, sincèrement, tu sais, je me suis rendu compte en relisant après que elle avait marqué l'adresse avec Canada. C'est sûr que, tu sais, tu vois que j'habite à Verdun, toi, tu habites à Ville-la-Salle, tu mets Canada, ça aurait dû allumer quelque chose. Tu sais, mais... c'est tellement bien fait.
Mais Marketplace, c'est le royaume de la fraude.
Ah, écoute ça, là.
C'est la jungle de la fraude.
Ça gâche le plaisir. Sincèrement, je trouve que ça gâche le plaisir. Alors, j'ai bloqué le compte, j'ai averti Facebook. Oh,
je te dis que là, il y a enquête.
J'entends
que le FBI est débarqué chez Ego Boss.
C'est ça. Ouais, je pense que
Facebook,
je pense qu'il est encore là, là.
Non, mais Facebook, les fraudes avec des personnalités publiques, là, comme Gino Chouinard, Pierre Bruno, ma conjointe, ils les laissent.
Ouais.
Ils s'en foutent. Fait que t'as une personnalité publique qui dit, garde, là, on utilise mon nom, ça, c'est faux.
Ouais.
Puis ils disent, non, nous, on n'a rien, c'est une publicité normale.
Non, mais ils ont comme aucune, à leurs yeux, ils n'ont aucune responsabilité.
À leurs yeux, c'est des clics.
Exactement. Puis je pense qu'ils lisent même pas ça. Puis c'est toute l'intelligence artificielle. Comment c'est des bots, là, tu sais, des robots qui gèrent tout ça. Fait que finalement, il n'y a plus personne qui gère rien.
Cette personne-là a fait donner des avances.
Ouais.
Fait qu'elle se fait peut-être 2-3 000 piastres par jour.
Écoute, ça peut être très payant. Ça peut être très, très, très payant.
Ça fait donner des 100 piastres d'avance, là.
Complètement. Mais tu sais, depuis, j'ai raconté ça, les gens sur Facebook me racontaient des histoires. Il y en a qui se sont fait prendre. Il y en a qui ont payé de l'argent. Puis là, je te parle de fraude sur Marketplace, mais il y a ma fille aînée me disait justement en fin de semaine qu'une de ses amies qui se magasine un logement au centre-ville de Montréal s'est fait dire, écoutez, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les applications de tout le monde, ça coûte 100 $ pour remplir la fiche. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de monde. C'est toujours sous pression, tu sais, c'est de l'extorsion de fonds sous pression. Sincèrement, c'est criminel, c'est illégal. Mario, tu peux pas... C'est de l'extorsion.
Je trouve que c'est trop facile. Puis les lois sont tellement pas sévères ici que pour ça, de toute façon, tu t'exposes à... une tape ses doigts, peut-être une demi-heure de travaux communautaires que tu feras pas parce qu'il y a personne pour la vérifier.
Mais la police se déplace même pas.
Ben non, personne n'a peur de se faire prendre.
Mais donc, cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, donc, a vraiment hésité. Elle a demandé à Audrey, qu'est-ce que t'en penses et tout. Audrey m'appelle. Je dis, non, faites pas ça. Parce que d'abord, premièrement, c'est pas légal de faire remplir des fiches à 100$ quand tu visites des appartements. La loi ici n'est pas faite comme ça. En France, c'est autre chose. En France, là, tu dois donner un dépôt là, pour pouvoir visiter un appartement, puis même. Mais ici, c'est pas ça du tout. Tu n'as même pas le droit de demander un premier mois de loyer. Là. Tu peux si la personne accepte, mais sinon, c'est même pas dans la loi. Bref, finalement, mais tu t'imagines, tu as 20, 30, 40, 50 visites. C'est tellement cher, tellement rare un appartement. C'est une denrée rare et chère qui fait que les gens sont prêts à payer 100$. Je suis sûre que la personne qui demandait ça, là, elle en a attrapé plusieurs. Là. Écoute, mon chum a reçu. Pas plus tard que ce matin, il a reçu Ville de Montréal. Votre véhicule a été détecté par notre radar de vitesse dépassant la limite autorisée, circulant à une vitesse de 42 km dans une zone scolaire. Moi, je lis ça, je dis, Thierry, as-tu roulé trop vite dans une zone scolaire? Il me dit, ben non! Et là, je lis ça, puis en lisant, je me suis dit, ben voyons, la Ville de Montréal ne vous envoie pas ça, là. Ça, là, faut le savoir. La Ville de Montréal ne fait pas ça. Vous allez recevoir une lettre chez vous, vous allez avoir des frais d'abord. Puis là, tu dis. Alors là, c'est comme tu cliques pas, ça dit. Si vous voulez, pour régler cette infraction sans avoir à comparaître devant un tribunal, veuillez visiter. Puis là, tu as un site là, avant cliques, le 16.
Tu mets ta, c'est ça, urgence. Tu mets ta carte de crédit, ils ont ta carte de crédit. Puis
là, t'es fait.
Il y a fraude.
Mais tu sais, ce qui est. Là, ici, c'était facile de voir que ça se pouvait pas, Mario. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est aujourd'hui. Puis s'il fallait que tu payes avant le 16. Pour la Ville de Montréal, beaucoup trop rapide.
Oui. C'était suspect.
C'était beaucoup trop rapide.
La conclusion de notre discussion, c'est qu'il faut être ultra méfiant.
Ah, tellement.
Mais au point où ça devient fatigant, c'est tannant d'être méfiant.
C'est pénible.
C'est tannant d'être méfiant.
C'est très pénible. Et sincèrement, puis, tu sais, là, je te parle, on pourrait. J'ai sorti juste des histoires, j'ai trouvé ce week-end des fraudeurs d'aînés, là. T'sais, les gens, là, des aînés qui se font frauder. Puis qui se font soutirer des milliers de dollars pour toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires d'animaux. Il y a une jeune recherchiste ici qui vient de me raconter là, que des fois, là, ils nous prennent par nos sentiments. Il y a des espèces de levées de fonds pour sauver un chat là, qui va aller à l'euthanasie. Donnez 20 piastres, donnez 50 piastres, sinon il va aller se faire... On va être obligé de le donner, de l'envoyer à l'euthanasie. T'sais, les gens payent parce qu'ils disent, oh mon Dieu, pauvre petit minou, pauvre petit pitou. C'est comme, il faut vraiment être rationnel puis dire, on ne paye y a rien. Donnez pas votre numéro de carte de crédit comme ça à tout vent.
Ça, les gens qui font cette campagne-là sur les petits chats, là,
c'est épouvantable.
Ils ont fait une campagne l'année d'avant en disant sauver un bébé, ils ont pas reçu une scène. Ils se sont repris avec le chat, puis l'argent est rentré.
C'est sérieux? Oh mon Dieu. Je voulais juste dire.
Je le devine.
Écoute, 10 secondes en terminant pour vous dire que j'étais oui, j'ai un. Puis je pourrais faire une autre chronique sur les erreurs de prix insupportables dans les grandes surfaces. Ce sera une autre chronique, Mario. Mais j'avais un billet de. L'Automax, parce qu'il y avait un gros lot en fin de semaine. Je l'avais dans ma poche avec mon cellulaire. Je sors mon cellulaire, mon billet de l'Automax tombe. Il est tombé dans le magasin. Écoute, j'ai fait toutes les allées. J'ai essayé de voir qui aurait pu peut-être l'avoir. Et là, j'ai testé l'humain. J'ai laissé mon numéro de téléphone et mon nom pour voir si quelqu'un allait me ramener mon billet de l'auto. Je n'ai pas eu d'appel. Donc, je pense que...
Mais c'était un billet perdant de toute façon.
C'est un billet gagnant. C'était une participation gratuite.
Ah, OK.
Pour une fois que j'en achète un.
Gagnant,
oui, pour une fois que j'en achète un. C'est pour te dire que des fois, on teste l'humain.
Puis on est déçu.
Et on est déçu.
Merci Isabelle.
Ben, ça me fait grand plaisir.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour Francis.
Salut Marie.
Ralentissement chez Tesla et ben il faut prendre les décisions qui s'imposent.
Ralentissement quand même Mario. Puis tu sais, on en a déjà parlé là, des véhicules électriques. Hein. On lit un peu partout là, que ça va donc mal. En fait, c'est que la croissance est moins rapide que ce qui était anticipé. Mais il y a encore de la bonne croissance là, dans ce marché-là, dans les deux chiffres. Par contre, évidemment, Tesla, qui à un moment occupait quasiment toute la place, ben aujourd'hui doit faire quand même face à un peu à la musique. Il y a des concurrents. Là. Il y a de plus en plus de marques.
L'Assemblée générale, l'année passée, Elon Musk, avait sur les concurrents chinois, avait un peu sonné l'alarme que les États-Unis pourraient pas compétitionner le prix de revient des véhicules.
Et j'ai écouté une excellente balado du New York Times en fin de semaine, parce qu'à un moment donné, la Chine a sauvé Tesla pratiquement. Là. C'est quand Tesla a ouvert l'usine en Chine, puis ils ont construit une usine extraordinaire, là, gigantesque, en un an. Pour dire, des fois, les Chinois font les choses différemment. Et au moment de dévoiler donc l'usine, la première voiture, M. Musk avait dit quand même qu'il en devait une à la Chine, mais en fait, les Chinois avaient quand même ce plan derrière. Et aujourd'hui, si tu vas chez BYD, chez NIO, etc., c'est tous des anciens ingénieurs de Tesla, c'est tous des anciens directeurs de production.
Pas me dire qu'ils ont volé les méthodes industrielles. Ils font pas ça en Chine.
Pas mal tout, en fait. Puis là, aujourd'hui, ben, il mange ses bas. Donc, pour l'année dernière, là, Tesla a une baisse de 1,6% de ses ventes. Chez Ford, chez GM, ça serait business as usual, mais Tesla, qui nous avait habitués à des croissances de 20, 25, 30% par année, c'est la première fois qu'il y a une décroissance du nombre de véhicules. On parle quand même de plus d'un million de voitures vendues là, pour une compagnie qui existait à peine il y a 10 ans. Là, fait qu'il faut dire que c'est quand même un accomplissement, mais ça va moins bien. Donc aujourd'hui, M. Musk a annoncé qu'il mettait à pied 10% des effectifs à l'échelle de la planète,
ce
de la compagnie. 14 000 personnes. Quand même. Puis moi-même, personnellement, tu sais, je suis assez fan de Tesla. Je trouve ça des belles voitures, etc. Mais j'avais pas réalisé à quel point ils étaient rendus 140 000 employés
dans le monde.
Pour moi, Tesla, tu sais, il y a Fremont en Californie, le Texas, là, mais c'est rendu quand même une assez grosse compagnie. Donc, ouais, 14 000 personnes là, qui vont perdre leur emploi. M. Musk dit que c'est une forme. Il a dit qu'il haïssait ça. Au moins, il joue un peu le pleutre, mais évidemment que c'était nécessaire là, pour un peu resserrer la compagnie sur ses objectifs.
Nouvelle génération, l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est encore tout nouveau, là, mais on est déjà aux deuxième génération.
Troisième génération. Quand ça a été lancé, ChatGPT, dont on parle, en novembre 2023, donc ça va faire... Ça fait 2022,
excuse-moi. Ça fait 15 mois.
Un an et demi, ouais. C'était GPT-3. Donc, et là, depuis, ils ont lancé GPT-4, donc c'est comme une échelle, il y a comme 3 zéros de plus de données. Là, ça n'a comme pas rapport. Là, c'est beaucoup plus gros, le 4, que le 3. Et donc là, ce qu'on a appris, c'est que ces derniers jours, là, c'est simplement accessible via, vraiment pour les développeurs, là, pour l'instant. Ils appellent ça ChatGPT-4 Turbo. Là. Je ne sais pas d'où vient le mot. Là. Je ne sais pas s'il y a un turbo compresseur.
C'est une forme de GPT-5. Là,
ouais, ben, en fait, GPT-5 s'en vient, mais GPT-5, encore une fois, ça va être comme un ordre de grandeur là, plus performant. Mais essentiellement, GPT-4 Turbo, c'est que ça intègre des données jusqu'en avril 2023, donc maintenant, alors que la version précédente...
C'est en avril 2024.
2024, excuse-moi. Donc, ouais, donc là, c'est vraiment...
Oui, parce que les premières versions, c'est ça, tu peux pas parler d'actualité trop récente.
C'était septembre 2021. Là. Moi, je suis abonné, je paye le 20$ par mois. J'avais accès à des données qui avaient 2 ans. Donc, tu sais, pour ce qui est, mettons, je sais pas, certaines guerres, là, etc., on avait des données relativement récentes. Mais non, effectivement, là, c'est vraiment collé sur l'actualité. Et ça permet aussi, là, il y a évidemment des améliorations logicielles que je ne comprends pas, mais essentiellement, ça a permis de diminuer le coût par traitement de près de 70%. Là. Donc, pour les gens qui utilisent à échelle ces outils-là, c'est beaucoup moins cher. Il est possible, Mario, de déposer dans ChatGPT puis d'obtenir un résumé ou une révision, etc., 300 pages de texte dans un seul prompt, là, dans une seule requête. Donc, tu te dis que c'est quand même performant. Je ne sais pas si tu avais envie d'écrire ta biographie, Mario,
300 pages.
Mais 300 pages d'un coup. Tu peux faire corriger, faire un résumé, écrire une préface, tout ce que tu veux, une seule requête. Là,
Ils ont vraiment à l'avance. C'est-à-dire que, il y a Google avec Gemini, mais c'est comme si ChatGPT ont vraiment pris la pole.
Oui, puis l'enjeu, c'est toujours la même chose. Puis, tu sais, on va voir ce qui se passe du côté de Google, parce que l'enjeu, c'est les données que tu es capable de mettre dans la machine, là, dans l'instrument, l'AI, puis évidemment de faire tourner ça. Donc, Google a quand même l'avantage d'avoir des données plus que qui que ce soit. Puis tu sais évidemment que OpenAI se fait notamment poursuivre là, par des auteurs, par des musiciens, par toutes sortes de monde pour vol de propriété intellectuelle. Et dans ChatGPT-4 Turbo, il y a maintenant un truc qui protège contre les gens qui chercheraient activement à utiliser de la propriété intellectuelle pour générer de la nouvelle information. Donc, il donne quand même une petite fleur là, à cette communauté des créateurs, mais les poursuites suivent leur cours quand même. Là.
L'entrée en bourse là, de Trump Media, ça avait été un succès bœuf les 48 premières heures.
Oui, effectivement. Je t'avais expliqué comment ça avait fonctionné. Hein, puis c'est drôle, j'en parlais en studio, puis tout le monde n'est pas au courant. Monsieur Trump, son entreprise médiatique, là, dont Truth Social est le principal produit, n'a pas tout à fait une entrée en bourse.
C'était
un SPAC, un Special Purpose Acquisition Vehicle. C'est une entreprise qui était déjà en bourse, donc qui lève des capitaux et qui dit éventuellement, on va faire une acquisition. Puis là, évidemment, ultimement, ça se précise à monnaie, l'acquisition, ça va être l'entreprise de M. Trump. Mais ultimement, il y a des entrepreneurs qui créent des coquilles comme ça en disant « on va acheter une entreprise dans le futur ». Et donc, est-ce que vous voulez, ils passent le chapeau essentiellement en disant « voulez-vous acheter des actions d'une entreprise qui fait rien, une entreprise qui a le projet d'acheter une entreprise opérante ». Donc, éventuellement, ce SPAC-là a acheté l'entreprise de M. Trump. Donc, M. Trump n'a pas eu à dévoiler tant que ça des données comme on le fait généralement dans un appel public à l'épargne avant, parce qu'il était le fruit d'une acquisition. Donc, c'est pas un IPO, c'est pas un appel à l'épargne, c'est une acquisition qu'a fait cette coquille-là. Et donc, on a vu les données là, récemment. L'entreprise qui initialement a été valorisée pratiquement à 11 milliards de dollars canadiens, là, 9 milliards de dollars US, ben, elle fait genre 5 millions de revenus par année. Là. Donc, tu sais, il manque plusieurs zéros là, pour que ça ait le moindre bon sens. Et donc,
sauf que là, le prix de l'action, il baisse à tous les jours.
Ben là, elle a perdu 18% aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a comme un syndrome
mais
là-dedans.
C'est tous les jours.
Ben, c'est tous les jours, oui. Puis, à un moment donné, donc, au moment de l'entrée en bourse, le SPAC valait autour de 40 $ Mario. Ça a monté jusqu'à presque 70 $ Donc, c'est là où la valorisation totale était autour de 11 milliards de dollars canadiens. Mais là, aujourd'hui, c'est plutôt 3 milliards de dollars. Donc, là, il y a vraiment un effondrement, à peu près 70% là, depuis un mois environ. Et puis là, il y a comme un phénomène qui se produit, Mario, c'est qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la valeur de cette entreprise-là. Elle fait pas de revenus, elle a fait 5 millions donc de revenus et 50 millions de pertes dans la dernière année. Donc, il y a pas les fondamentaux, comme on dit en finance, ne sont pas là. Il n'y a aucune raison de croire que ça va exploser, qu'il va y avoir des dividendes ou des profits. Et donc, éventuellement, je serais pas surpris que ça se poursuive.
Mais c'est Mario. Si ça vient trop bas, ça va devenir un problème, même politique pour M. Trump, devenir la risée en bourse.
Exactement.
Avec son super...
On en reparlera parce que j'ai plein d'autres histoires à te raconter là-dessus.
Merci, Frances.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux. Les vraies questions.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Alors Alain nous en parlait un petit peu plus tôt, le Conseil national du PQ a résonné fort et le discours de clôture du chef a provoqué bien des discussions. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a la certitude de pouvoir tenir un troisième référendum qui sera probablement celui de la dernière chance. Nos analystes ont suivi tout ça avec grande attention. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir.
Bonsoir, Sophie. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Canada, Justin Trudeau, cherche à effacer le Québec, dit le chef péquiste. Les mots sont lourds de sens. Un extrait.
On peut réfléchir à la carrière de son père et y voir une continuité. C'est une philosophie politique du Canada qui est d'origine coloniale, mais quand je les entends chanter « God save the King », est-ce qu'il y a grand-chose qui a changé à la lumière des politiques du gouvernement actuel?
Alors, colonialisme, assimilation, qu'est-ce que vous dites d'abord du choix des mots, Emmanuel?
C'est très fort. Je pense que ça reflète cependant la conviction profonde du pourquoi de l'indépendance chez Paul Saint-Pierre Plamondon. Le risque pour lui, cependant, c'est qu'on est encore dans une définition de l'indépendance comme une libération du joug d'Ottawa. Ça fait un peu années 70, dirait certains. On n'est pas dans projeter l'idée d'un pays de ce qu'un Québec pourrait accomplir. Et je pense que si un jour le Parti québécois veut réussir à moderniser son discours, il faut être capable de projeter les Québécois ailleurs que dans les affrontements passés qui ont caractérisé le mouvement souverainiste jusqu'ici.
En même temps, Paul, plusieurs disent qu'il est un peu vite en affaires. Encore faudrait-il que l'option grimpe dans les sondages, là, comme le parti le fait?
M. Saint-Pierre Plamondon, au fond, fait le pari de la clarté. Je m'explique. C'est clair que lorsqu'il dit aux électeurs, aux électrices, bien sûr, il s'adressait aux militants péquistes, là, mais ce qu'il dit à l'ensemble des électeurs, si rien ne change, c'est que dans 2 ans et demi, la question de l'urne, si lui continue à dominer dans les sondages, sera voulez-vous, oui ou non, êtes-vous oui ou non en faveur d'un référendum? Et si vous ne voulez pas de référendum, ne votez pas pour moi. C'est un peu ça ce qui est sous-entendu dans son message. Mm-hmm. C'est un couteau à double tranchant en politique. Tu sais, hein, la politique, c'est l'art d'additionner, non pas de soustraire. L'autre paradoxe, également pour M. Saint-Pierre-Plamondon. Imaginons un instant qu'il prend le pouvoir, mais que la souveraineté reste où elle est en ce moment dans les intentions à peu près 35-36%. Donc, un référendum qui serait perdant. Le tiendra-t-il quand même? Là-dessus, il est vraiment de l'école. Moi, il me rappelle tellement, sur le fond, là, sur le niveau des stratégies, il me rappelle tellement Jacques Parizeau. Okay. Là, tu sais, c'est carrément sur l'autoroute de la souveraineté, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive.
Ouais. Mario, si le paysage politique change, si M. Poilievre arrive au pouvoir, gagne son pari, ça va être un autre paysage politique qui pourrait l'aider ou lui mettre des bâtons dans les roues. Là, ça va changer beaucoup de choses dans le rapport à Ottawa, non?
Quand on est souverainiste, on doit convaincre les gens de quelque chose de fondamental. Je veux dire, tu fais pas un Québec souverain pour le défaire 4 ans après. Là. Donc, quand je l'entendais, c'est sûr, M. Paul Saint-Pierre-Plamondon, en fin de semaine, je pense qu'il a voulu brasser la cage. Je pense qu'il était un peu inquiet de voir que l'aiguille de la souveraineté bouge pas, puis il a voulu brasser la cage. Parce que dans certains de ses propos, il est allé un peu loin, là, de faire comme si c'était un automatiste qui va gagner la prochaine élection, de faire comme si il... Lui, il est le gars de la dernière chance. Ça fait un peu après moi le déluge. Donc, tout ça était risqué, mais je pense qu'à ce moment-ci, il voulait brasser la cage. Mais c'est vrai, il a dit, François Legault s'en va à Ottawa, il n'obtiendra rien. Mais on ne sait pas. Peut-être que François Legault va obtenir des certains pouvoirs en immigration. Il a dit, Justin Trudeau fait ceci, cela, mais peut-être que dans un an, Justin Trudeau sera pas là, puis que ça va être M. Poilievre à la place. Donc, c'est toujours risqué là, de dire faut faire la souveraineté, mais sur la base d'événements qui sont dans l'actualité ces semaines-ci, mais qui pourraient, tu sais, qui pourraient disparaître en un tournement.
C'est ça, en tout cas. On voit la caricature là, de notre collègue Journal de Montréal là, qui présente un chef qui a de grosses pointures à chausser. Et puisqu'on parle de chaussures, tous les yeux sont tournés vers Ottawa, hein, demain jour de budget. Et pour ceux que ça intéresse, Emmanuel, surtout féru de mode, le ministre sera chaussé de souliers de 230 $ achetés dans une boutique montréalaise.
Maintenant, moyenne.
Oui, tout à fait. Maintenant que l'essentiel est révélé, on va découvrir demain ce qui reste après l'effeuillage du gouvernement Trudeau des dernières semaines. Hein. Ça totalise quoi? 18 milliards de dépenses, là? Alors, la question, quelle sera l'ampleur du déficit, notamment?
Ou l'ampleur des efforts pour le masquer, hein? Ouais. Parce que Mme Freeland avait prévu un déficit de 40 milliards. La réalité, c'est que l'économie a ralenti au Canada comme dans les provinces. Ça crée un trou. Ajouter les dépenses, il y a deux options qui se dessinent pour le gouvernement. Moi, celle dont on entend beaucoup parler, c'est la théorie du pelletage par en avant. Hein? Tu repousses toutes les dépenses dans les années futures là, pour donner l'impression aux gens que tu en fais beaucoup, quand dans le fond, tu verrouilles la capacité d'agir des gouvernements. Puis la grande, grande question, moi, je pense, pour demain, c'est quelle va être l'ampleur de ce qu'on va imposer comme taxe ou comme mesure pour ramasser de l'argent auprès des mieux nantis? Est-ce qu'on va aller jusqu'à taxer les actifs, la fortune? Est-ce qu'on va créer une nouvelle échelle d'impôts pour les plus riches? Et jusqu'où est-ce qu'on va faire payer les méchantes grandes entreprises? Ça, vous allez avoir bien des économistes qui vont vous dire que c'est la capacité de faire croître l'économie que le gouvernement risque de mettre en péril.
Mario, tu t'attends à quoi rapidement?
Oui, bien là-dessus, précisément, au niveau de la taxation des entreprises, je sais que c'est à la mode là, de dire on fait payer les grandes entreprises qui ont les moyens. Présentement, le drame du Canada, c'est que les entreprises n'investissent plus, la productivité est à zéro, puis notre niveau de vie là, est en déclin à cause de ça. Aux États-Unis, l'économie marche, mais plus au Canada. Au Canada, l'économie est au neutre, nos entreprises sont au neutre.
Alors, émission spéciale demain, hein, Paul, à compter de 15h55.
C'est l'édition spéciale de l'Ajoute, vous décortiquez ça en direct. Emmanuel sera là, notamment.
On a hâte. Alors, vivre à Montréal sans voiture, élever deux enfants, est-ce que c'est possible pour une famille avec de jeunes enfants? Valérie Plante pense que oui.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé au demi-marathon de Beijing en Chine?
Qui avait lieu hier, Mario. Il y avait toutes sortes de candidats qui s'affrontaient à l'occasion de ce demi-marathon, mais ça a fini par enflammer complètement le web à cause de la fin, la toute fin de ce demi-marathon. Parce qu'à ce moment-là, il y a un peloton de tête qui est composé de 3 coureurs. Il y a entre autres Willy M. Nagat, qui est lui-même quelqu'un d'origine kenyane. Il est avec un autre Kenyan, Robert Keter. Et il y a un gars de l'Éthiopie qui est là, Jenny Arubalka.
Deux Kenyans et un Éthiopien. Parce que c'est deux peuples qui ont gagné leur part de course de fond, là, de marathon et de demi-marathon.
Qui gagnent à peu près tous, Mario, le règle générale. Mais il y a également...
Parce que t'as l'impression que le 50e Kenyan il gagnerait sur la plupart des peuples de la Terre. Là. Même le 200e Kenyan gagnerait dans la plupart des pays. Là.
C'est effectivement ahurissant, règle générale, puis ça, il semblait être en bonne voie, les trois, pour gagner, mais sont suivis très près par Yi Jie, qui est un Chinois et qui est justement là, le détenteur de tous les records de marathon à peu près en Chine. Il est sur l'équipe nationale.
Là, il est quatrième.
Il est quatrième. Et là, Mario, on va regarder à l'écran pour ceux qui nous suivent en vidéo, alors qu'on voit la fin de la course. Et là, il y a comme le leader, justement, en avant, qui se met à faire des petits signes, là, William Nagat, en montrant « go, go, vas-y, vas-y ». Et je te jure, sur les derniers mètres de la course, il laisse littéralement passer le jeune Chinois qui prend la pole position puis qui gagne le marathon. Juste devant eux, il laisse passer. Et là, ben évidemment, la toile s'est enflammée. Les gens sont aux abois en disant « mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe ?» Ils font pas, là, tu peux le voir à l'écran, ils font « oh !» aucun effort pour essayer de le dépasser.
Non, mais il a fait signe aussi. Avec sa main, passe.
Littéralement, il a fait signe avec sa main, va-t'en, passe devant nous. Et finalement, ben, sans surprise, M. Jie s'en vient gagner la course enquête qui a été déclenchée.
Il y a deux façons de voir ça. Tu peux dire quelle belle courtoisie de laisser gagner le candidat local. Tu peux dire quand t'es dans un pays qui est une dictature, quelqu'un t'a dit là, by the way, c'est pas vous autres qui gagnent.
Mais c'est fou, puis en plus, lui a mis ça en entrevue, là, celui qui l'a laissé passer, qui a fait le signe de la main en disant « c'est mon ami, je voulais qu'il gagne ». Ouais, il y en avait deux autres aussi qui étaient là, c'est bizarre.
C'est curieux, en Chine seulement. Merci Alexandre.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Ça se fait d'avoir deux jeunes enfants, là, sont grands, mais sans avoir une voiture, mais il faut avoir des options. Et moi, c'est toujours là-dessus que je vais pousser. Pourquoi il faut continuer à penser qu'ici, il nous faut notre tramway avec la ligne rose? C'est parce qu'il faut des options.
Toute vêtue de rose, Mme Plante. Alors, annonce de l'expansion à Montréal du service commune auto, ajout de plus de 1000 voitures. L'occasion pour la mairesse de nous dire qu'élever deux enfants sans voiture personnelle à Montréal, c'est faisable avec des options. Paul, elle l'a fait?
Elle l'a fait, oui. Tout dépend. Probablement que c'est, oui, tout est faisable. Remarquez, dans une ville comme Montréal, sans doute, c'est plus facile qu'à l'extérieur. En même temps, c'est sans doute pas idéal. Mais tu sais, ces genres de déclarations, ça nous rappelle, oui, c'est possible de faire une épicerie, de se nourrir à 75 $ par semaine, avait dit Philippe Couillard pendant la campagne de 2018. Donc avoir deux enfants à Montréal sans véhicule, il y a le métro, évidemment, les autobus, il y a ces voitures communautaires. Mario va être content que je le cite. Il y a les pistes cyclables également. Donc, oui, c'est possible. Mais tu sais, en février à moins 20, c'est pas évident et ça prend sans doute un bon gardien ou une bonne gardienne.
Oui, à l'extérieur de Montréal, difficile aussi.
J'ai fait le calcul, moi.
Oui.
Un cycle, hein, là où habite la mairesse. C'est sûr que c'est facile si tu habites avec un cycle dans un quartier central, mais encore là, il faut que tu habites proche de la rue où il y a une épicerie qui livre. Mm-hmm. Alors, faites le calcul. À un cycle, en ce moment, pour habiter à distance de marche de l'épicerie, des services et de tout le reste, il n'y a rien en bas de 850 000 $ Donc, c'est ça le problème, en vérité. Puis sur la question des options, elle a raison. La raison pour laquelle les gens ont une, voire deux autos, c'est parce que le transport en commun, les modes de déplacement sont vraiment profondément médiocres au Québec, au Canada et en général ici. C'est la raison pour laquelle c'est tellement difficile de se départir de l'auto solo.
Ouais. Mario?
Mais comme une auto, c'est parfait. Là. Comme une auto, c'est excellent. Pour les gens qui n'ont pas besoin d'une auto à temps plein, tu as une auto au besoin, c'est parfait. C'est juste que moi, je suis toujours un peu... j'ai toujours quelque chose d'humoristique parce que j'ai souvent été dans une soirée ou un souper puis tout ça. Puis là, quelqu'un passe la soirée à dire hey, « moi, j'ai pas d'auto, je suis donc ben bon, je vis pas d'auto, je vis pas d'auto. » On se dit « moi, il faudrait s'en aller, la prochaine réunion, t'es à Saint-Hyacinthe, je peux t'embarquer avec toi? » Tu sais, c'est ça aussi, là. T'as pas d'auto, à un moment donné, tu deviens prégné avec des contraintes, tu demandes des lifts aux autres. Donc toi, tu te vantes, t'as pas d'auto, tu te vantes de ça partout, mais dès que t'as besoin de te déplacer un petit peu plus loin, tu demandes
vélo,
à quelqu'un
Mario.
De te conduire.
Le vélo!
C'est Mario. De l'avoir en vélo, Mario. En tout cas, l'année passée, il y a 14 % des ménages montréalais qui l'ont utilisé, ce service d'autopartage. Alors, j'imagine que Mme Plante...
C'est excellent.
Il faut que ça monte.
Il y a aussi des taxis. Théo, taxi, etc.
Surprise, les membres de l'AFIC ont rejeté à 61 % l'entente de principe qui a été présentée par leur exécutif. Et ce qui semble vraiment ne pas passer, là, c'est la demande au sujet de la mobilité des infirmières. On écoute Mme Bouchard.
On retourne avec 60 000 professionnels en soins
qui réitère au gouvernement que la mobilité, flexibilité, souplesse, peu importe comment on l'appelle, elles n'en veulent pas.
Vous voyez comment cette réponse, est-ce que c'est un bris de confiance avec le gouvernement ou un désaveu du syndicat?
C'est symptomatique d'un syndicat qui a passé un an à mobiliser ses membres en leur faisant peur et en cultivant l'idée que le gouvernement allait demander à une infirmière en psychiatrie d'aller faire des accouchements. Alors, veut pas, ces perceptions-là sont restées. Et après ça, c'est très difficile de convaincre ces mêmes membres-là que c'est pas ça qui est écrit dans la convention collective. Mais il va falloir trouver une solution. Les infirmières veulent pas de temps supplémentaire, puis ils veulent pas de mobilité.
Volontaire, parce que c'était le mot est important. Veut des soins.
Ouais. En même temps, c'est pas Paul symptomatique aussi d'un groupe de travailleurs qui n'en peut plus de ces conditions de travail, du cancer du TSO notamment, et puis qui a peur des abus.
Oui, mais en voilà des éléments de solution, et il y en a d'autres également pour justement empêcher qu'il y ait du temps supplémentaire qui est contraint, obligé aux infirmiers et aux infirmières. Mais Emmanuel le souligne, c'est les infirmières ont l'humeur dans le plafond en ce moment pour toutes sortes de raisons. Mais je reviens à ça, là. La mobilité, elle était volontaire, jamais imposée dans des secteurs connexes à leurs pratiques usuelles. Et donc, le constat, c'est que les infirmières s'y objectent, défendent un système actuel, défendent le statu quo qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne surtout pas pour les patients, en tout cas.
Ouais. Comme Mario, le succès de la réforme du ministre Dubé passe par une entente acceptée, là.
Ouais.
Faut faire la paix, là.
Oui. Mais tu sais, la vraie question que tout ça soulève, là, c'est est-ce que c'est encore gouvernable? Est-ce que tout ça va devoir être privatisé un jour? Est-ce que le secteur public, comme on a connu, avec des monopoles d'État, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est gérable? On peut mettre toutes les couleurs de partis, chacun leur tour, les partis politiques au pouvoir, mais est-ce que c'est encore gérable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore moyen de faire quelque chose avec ça pour donner un service à la population qui en ait pour son argent avec les impôts qu'on paye? Je suis de moins en moins sûr.
C'est la grande question. Merci à vous trois. On se retrouve demain.
Au revoir.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
On parle sport avec Jean-François Barry. Jean-François, Canadien, donc un 2-2 soir là, contre la même équipe, un aller-retour contre Détroit, et c'est la conclusion de la saison.
Ouais, drôle de finale de saison, honnêtement. On n'a pas vu les Wings de l'année, puis là, on les voit deux fois consécutives. Ça aurait été, mettons, si le Canadien s'était battu pour une place en série...
Ça serait excitant.
Ça serait incroyable, mais le fait que nous, on soit plus là...
Mais Détroit ont besoin de ces points-là. Pour eux, c'est excitant, d'une certaine manière, là.
Pour eux, c'est super excitant. En fait, pour eux, ça doit même être comme rassurant, parce que si tu regardes les autres équipes, exemple, les Penguins vont jouer contre Nashville... Les Red Wings, logiquement, ils peuvent aller chercher les deux, puis s'ils vont chercher les deux contre le Canadien, bien leur place en série est assurée. Là. C'est vraiment l'équipe qui a le parcours le plus le facile, parce qu'il reste deux matchs à chacune des équipes.
Puis les Canadiens, j'ai regardé le classement matin, ils peuvent plus descendre par le bas, mais toute victoire du Canadien, ou tout point au classement du Canadien, c'est un risque. Ils sont un point derrière Arizona, puis deux derrière Ottawa. Fait que tous les points que le Canadien ramasse, c'est un danger de reculer dans le tri. Là. Fait qu'il n'y a pas vraiment... Excuse-moi.
Honnêtement, là, s'il y a eu, mettons que Kent Hughes a croisé Martin Saint-Louis dans les derniers jours, là. D'après moi, il a dit, tu sais, Martin...
Fais jouer Pezzetta en masse, là.
Moi... Tu gagnes, c'est parfait, mais si tu perds, il n'y a personne qui va être fâché. Il n'y a personne qui va se souvenir. Là, le Canadien en 74, qu'on finisse à 76 ou 74, c'est une année perdue quand même. Là. Fait qu'il n'y a personne qui va s'en souvenir. Fait que je suis pas certain que. Oui, les joueurs ont leur fierté et tout ça, là, mais entre la fierté et jouer sa place en série, c'est certain que les Wings vont avoir le couteau entre les dents beaucoup plus que le Canadien ce soir. Surtout que ce soir, c'est à Détroit.
Ouais, et là, il y aura une nouveauté pour le Canadien, cependant. Une excitation sur la glace.
Mais une très grande excitation. Là. Aujourd'hui, là, c'est fou sur les médias sociaux. On ne voit que ça. Faut dire que ça fait deux ans qu'on voit passer
qu'on nous en
exploits.
Parle. Ouais.
Partout. Faut dire qu'il a livré la marchandise partout où il est passé. On l'a vu au championnat junior, on l'a vu dans son équipe à Boston, on l'a vu même l'année passée à la Coupe du Monde. Lane Hudson s'emmène finalement avec le Canadien. Puis aujourd'hui même, il en a mis plein la vue à l'entraînement. Là, les journalistes, quand les journalistes et les joueurs sont excités, c'est quand même bon signe. Les joueurs ont semblé le trouver fluide, à l'aise. C'est un gars qui est, en anglais, là, très skills. Là. Il est beau à voir aller avec une rondelle. Il fait beaucoup de choses avec une rondelle. Aujourd'hui, ils ont fait une petite compétition de tir de barrage, puis c'est lui qui a fait gagner son équipe là, avec une magnifique feinte.
Hey, c'est drôle, je voulais t'en parler. Tu sais, Canadien, là, mettons, là, au début de l'année, l'année passée, Suzuki, Caulfield, les tirs de barrage... Là, depuis la deuxième moitié de la saison. Mais là, ça en est rendu gênant. T'as l'impression que c'est toi, moi, pis un de mes oncles, là, qui nous embarque sa glace. Les gars lancent pas la moitié du temps. On dirait qu'ils veulent faire, ils veulent se penser fin. Ils arrivent lentement. Ils comptent plus jamais. Mais pour vrai, c'est pathétique. Il y a Elonen qui a frappé le poteau. Mais ça fait combien de tirs de barrage? Caulfield en a rentré une coupe.
Caulfield, là, il a échappé samedi soir.
Ridicule.
Là,
mais il me semble que c'est de plus en plus gênant. Le Canadien est de plus en plus, mais nul en tirs de barrage, là.
Ah ouais, on donne pas beaucoup de buts à notre gardien. En fait, puis là, tu sais comment je l'aime, mais je pense que le problème, c'est Suzuki. Lui, l'année passée, souviens-toi, là, il marquait.
Ah, il avait un taux incroyable, il en fait plus jamais.
Mais là, on dirait que c'est deux feintes, là, tu sais, sa feinte de. Il fait semblant, puis il revient du revers à la dernière minute. Et l'autre, là, qui tarde à lancer, puis finit par faire une balloune par-dessus le blocker ou la mitaine du gardien. Ces deux-là, les gardiens l'ont vu. Fait que là, on dirait qu'il est un peu coincé. Caulfield, lui, c'est un lancé, mais il trouve toujours la faille. Là, en fin de semaine, il a échappé, mais il est un peu plus régulier. Puis Ilonen a de brillantes mains, mais il a touché une ou deux fois le poteau.
Deux fois le poteau,
Il y a une fois, là, du bout de la jambière, il avait battu le gardien, il restait juste à finir. Fait que, mais est-ce qu'on devrait trouver d'autres joueurs pour varier la soupe? Parce que vous savez comment ça marche dans la Ligue nationale de hockey, là. Tout est... Les gardiens, ils savent, là. Les gardiens
ils font regardent des films, là.
Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, même toi et moi, Mario, il y a des joueurs de certaines équipes, on sait ce qu'ils vont faire. T'sais, on fait, ah, lui, il va lancer, il y a toute une garnotte. On le sait avant de partir. Fait que il faut que tu te renouvelles, puis peut-être que le Canadien pourrait, oui, ben, renouveler son bassin. Mais bon,
tout ça pour dire qu'Hudson, les attentes sont élevées pour ce soir.
Oui, puis là, on le fait jouer avec Savard, ce qui est une très bonne décision, un gaucher, un droitier. En plus de ça, Savard, vous connaissez à quel point il est bon avec les jeunes. C'est un vétéran, c'est un vieux routier, c'est un gars qui en a vu d'autres, mais, donc c'est une bonne
Le but, c'est-tu qu'il soit sur l'équipe en octobre, il est dans l'équipe? C'est ça qui est souhaité ou...
Ben, ils vont dire que si c'est possible, oui, là, tu sais, je veux dire, le but, c'est que ce soit... Tu sais, il y a Cole Caulfield, c'est Mathias Brunier qui écrivait ça aujourd'hui sur Twitter, il y a Cole Caulfield, puis il y a Sean Farrell. Sean Farrell est arrivé l'année passée... Comme Lane Hudson arrive cette année, là. Souviens-toi, il est venu faire un petit bout. On a fait, ah ouais, peut-être. Puis finalement, il va avoir passé l'année à Laval. Et l'impression que ça donne, c'est qu'il va passer l'année prochaine à Laval aussi. Là. Il n'y a rien cassé. Et t'en as d'autres que tu montes. Je me souviens de Cale Makar quand ils l'ont monté avec l'Avalanche du Colorado. Il n'est plus jamais redescendu. Cole Caulfield, quand il est arrivé ici, mais il est resté ici. Fait que de quel côté va tomber Lane Hudson? Moi, j'ai l'impression qu'il va aller à Laval l'année prochaine parce que c'est un petit gabarit et on veut qu'il apprenne à défendre, on veut qu'il apprenne à jouer. Mais à lui d'épater tout le monde à partir de ce soir, là, tu sais, s'il explose puis qu'il devient un joueur extraordinaire, il n'y a personne qui va se plaindre. Donc, ça va être à surveiller. Puis, il joue tout près de la maison, mine de rien. Il joue à 2 heures de... Lui, il est né à Holland, que je lisais tout à l'heure. Donc, il est à 2 heures de la maison. Puis, moi, j'espère voir...
Okay, probablement que sa famille puis des proches puis tout ça vont être dans l'amphithéâtre ce soir, là.
Mais ça, d'après moi, il aurait joué au bout du monde que sa famille serait allée quand même, mais il va avoir plus de visites, il va avoir plus de famille. Puis Détroit va être prêt. Puis j'espère que le Canadien va monter un peu plus dedans que samedi. Moi, samedi, j'ai trouvé le Canadien, là, il était sur le bord des vacances déjà. Là. Tu sais, je me souviens, entre autres, après le but de Caulfield, il en a manqué un autre, là, le tourner sur la ligne. Après ça, on l'a vu rire au banc. Ah, pas grave, là. Je suis rendu à 27 finalement, ça va bien. Moi, je veux qu'on compétitionne jusqu'à la fin. Je comprends qu'ils sont éliminés, je comprends qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais par respect même pour les autres équipes qui sont dans la course.
Ouais, mais l'année prochaine. L'année prochaine. Moi, dans ma tête, Canadiens, ils ont un trio là, qui sont loin d'une équipe pour faire les séries encore. Moi, j'ai déjà mis un X sur l'an prochain, mais pas le propriétaire.
Mais là, Jeff Molson qui a donné une entrevue, puis il a dit qu'il aimait là où l'équipe s'en va, etc. Puis sa grosse citation, c'est de dire qu'il peut rêver à être dans le mix l'an prochain. Donc, pour moi, être dans le mix, là, si je comprends bien, ça veut dire comme les équipes de ce soir, là, comme Philadelphie.
Mettons qu'au 1er avril, on ne le sait pas.
Exactement. Donc, après ça, ça se peut que tu manques. T'sais, si tu manques par 2 points, écoute, c'est pas une mauvaise saison pour autant. Là. Mais donc, il s'attend à être dans la course jusqu'au mois d'avril.
Tu y crois?
Tout va dépendre de Kirby Dach. Moi, je pense que c'est la clé. Si Kirby Dach est ce qu'on pensait qu'il allait être au camp, souviens-toi, là, c'était le meilleur joueur du Canadien, mais c'est sûr que l'équipe vient de prendre une coche. S'il n'est pas capable de faire une saison complète, s'il se blesse, s'il ne livre pas la marchandise, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que le Canadien va faire au repêchage aussi? Est-ce qu'on va échanger des joueurs? Tu sais, je vois que Harris, ce soir, est laissé de côté. Là. Jordan Harris, là, Ah non, il est rétrogradé sur la troisième paire. C'est Struble qui ne joue pas ce soir. Mais là, il y a un trop-plein de défenseurs. Fait que, à un moment donné, il va en partir un. Là. Il y a Mayu qui cogne à la porte. Il y a Rennbacker qui va arriver à un moment donné.
Mais ils sont tous ordinaires. Là. Barron, Harris, c'est toute limite de faire la Ligue dans une mauvaise équipe. Mais je veux dire, il n'y a pas une équipe qui aspire à Coupe Stanley qui va aller chercher pour mettre sur le top 4. Là.
Non, mais cette année, le Canadien a son choix plus le choix de Winnipeg qu'on a eu en échange de Monahan. Fait que mettons que tu donnes le choix qu'on a eu pour Monahan avec Jordan Harris. Ça commence quand même à faire un petit emballage cadeau intéressant.
Tu pourrais mettre Anderson avec.
Oh, mais là,
Anderson. C'est tout un chou sur le cadeau. Là.
Si jamais quelqu'un prend Anderson, mettez du scotch tape en masse sur le cadeau, une grosse boucle bien, bien serrée pour être certain que ça.
Qu'il leur donne pas. Hey, merci Jean-François. Ouais. Salut.
Bon match.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Passion.
Discours enflammé de Paul Saint-Pierre Plamondon en fin de semaine, en chemin vers un référendum qu'il voit comme une évidence et un portrait très sombre du Canada, de la place du Québec dans le Canada qui est dressé. Marc Tanguay, chef du Parti libéral du Québec par intérim, est avec nous. Monsieur Tanguay, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dumont.
Qu'est-ce que vous pensez de la description du Canada qu'a faite Paul Saint-Pierre Plamondon?
Écoutez, je pense que c'est nettement exagéré. Vous allez me permettre de citer deux extraits, là. Le Canada est passé à une action concertée pour nous affaiblir, pour nous effacer, même à tous les points de vue. Puis deuxième extrait, Monsieur Dumont, le régime politique fédéral planifie ouvertement et explicitement notre déclin. Alors, je pense que clairement, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, puis on le voit dans sa façon d'aborder. Moi, là, je veux dire que le Parti québécois propose un référendum sur la souveraineté. Les Québécoises et Québécois jugeront, décideront. Mais dans son approche, Paul Saint-Pierre Plamondon, tant dans ses commentaires que dans sa vision de ce que serait sous le PQ un Québec souverain, force est de constater que c'est le chef le plus radical. Rappelez-vous, tout le cheminement, ça a pris des décennies, ça, M. Dumont, pour le PQ, de dire, ben finalement, on va proposer une association. Lévesque l'a fait, Parizeau l'a fait en 95, une association. Il parle pas du tout d'association dans son projet. Et même, il nous a ramené le dollar québécois. Alors, très radical, très engagé là-dessus. Et le constat qu'il a dressé, malheureusement, hier, là, c'est de l'exagération purement et simplement.
Sur les faits, là, vous avez effectivement sorti des phrases où il va très loin, mais sur les faits en matière de poids du Québec dans le Canada, moi, c'est une de mes obsessions. Je veux dire, c'est quand même alarmant. Là. Le Québec était 25 % du Canada. Là, sur une longue période, on est descendu à 24. Sur une longue période, on est descendu à 23. Puis là, avec l'immigration, mais un rythme effréné dans le reste du Canada, à Toronto, à Vancouver, là, de 23 en quelques années, on est passé à 22. Puis les démographes nous disent 21, 20, 19. Le Québec fond, la place, le poids politique du Québec fond dans le reste du Canada, dans le Canada. Là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon touche quelque chose, non? Comment le Parti libéral se positionne par rapport à cet enjeu?
Ben, la force du Québec au sein du Canada aura toujours, puis on n'a pas attendu Paul Saint-Pierre Plamondon pour s'en préoccuper. Vous avez raison, le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne est un élément important, central, parce qu'on veut participer, bien évidemment, au niveau fédéral, aux décisions. Certains vous diront, puis c'est notre position, que c'est pas avec le Bloc québécois qu'on est autour de la table des décisions. Une fois qu'on a dit ça, ça nous prend évidemment une immigration sous contrôle, une immigration planifiée. Avec François Legault qui réclame tous les pouvoirs en matière d'immigration, mais il faudrait qu'il se rende compte que les travailleurs étrangers temporaires, il les a lui-même autorisés. Et c'est lui-même qui a permis, avec les certificats d'acceptation du Québec, que les travailleurs entrent. Et nous avons demandé, M. Dumont, à François Legault, de grâce, mettez dans votre planification de l'immigration les travailleurs temporaires au même titre que les immigrants permanents. Alors, ça prend une immigration contrôlée, ça prend la force du français. Et nous ne tirons pas les conclusions alarmistes tant de François Legault que de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et là-dessus, M. Dumont, notre position est claire. François Legault est l'allié objectif de Paul Saint-Pierre Plamondon, entre autres, lorsqu'il crie au meurtre en ce qui a trait à la langue française. Oui, il faut être vigilant, mais ce n'est pas la crise qui fait en sorte que l'on va être complètement effacé le français au Québec.
M. Tanguay, Paul Saint-Pierre Plamondon, dans son discours, semble prendre pour acquis là, qu'il y aura un référendum, donc que le PQ va être élu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, mettons, au Parti libéral? Est-ce que vous travaillez dans le scénario que c'est inévitable, le PQ va être élu et il y aura un référendum, donc vous serez le camp du non? Mais est-ce que pour vous, là, c'est comme évident que ça va arriver?
Non, parce que l'alternative à ce mauvais gouvernement-là de la Coalition du Québec, c'est le Parti libéral du Québec. Ceci dit, M. Dumont, une chose sera très claire. Paul Saint-Pierre Plamondon va vouloir faire d'un référendum un enjeu électoral. Et très clairement, le Parti libéral du Québec sera très bien positionné pour faire en sorte d'affirmer la position de leader que le Québec doit avoir au sein de la Fédération canadienne. Ça, ça présuppose, M. Dumont, puis c'est un autre débat qu'on pourrait peut-être avoir, le respect des compétences du Québec par Justin Trudeau. On pourrait revenir si vous le voulez, mais la place du Québec au sein de la Fédération canadienne, si c'est un enjeu à l'élection, et semble-t-il que Paul Saint-Pierre Plamondon voudra en faire un, ben ça sera pas François Legault, ce sera le Parti libéral du Québec qui va vouloir renouveler cette participation et ce leadership-là du Québec au sein de la Fédération canadienne, parce que l'alternative, M. Dumont, c'est pas entre la séparation et le statu quo. L'alternative, c'est la séparation et une place accrue, un leadership assumé du Québec au sein de la Fédération canadienne. Ça, c'est le Parti libéral du Québec de 2024.
Donc, vous dites que le Parti libéral, la prochaine élection, ne défendra pas le statu quo, va présenter une vision de renforcement de la place du Québec dans le Canada.
Tout à fait. Et là-dessus, il y a eu le comité de relance sur lequel, présidé par notre président de la commission politique, André Pratt et Madouane Cacadet, des pistes de réflexion, comment faire en sorte pour amener le Québec plus loin au sein de la Fédération canadienne. Il y a des beaux succès, Conseil de la Fédération, des beaux succès passés, mais nous allons imaginer l'avenir du Québec avec un leadership renouvelé, faut le renouveler. Ça, nous sommes clairs là-dessus au sein de la Fédération canadienne.
Ben, en tout cas, Paul Saint-Pierre Plamondon a mis la table pour qu'on reparle de référendum et de souveraineté au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On aura sûrement plusieurs autres occasions. Marc Tanguay, merci d'avoir été là.
Merci, M. Dumont.
Au revoir. Le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Oui, donc, dur avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le traite de radical, nous promet que le Parti libéral va présenter une vision renouvelée de la place du Québec dans le Canada pour la prochaine élection. Merci d'avoir été des nôtres. C'était la première de la semaine. On se retrouve demain 16h.